BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul.
Allez, bientôt 18h, soyez les bienvenus dans Good evening business, comme tous les soirs en direct bien sûr. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, tout le monde qui continue d'attendre évidemment toujours et encore le nom du futur Premier ministre, le nom de Xavier Bertrand est revenu dans la course aujourd'hui, on va bien sûr en parler ce soir. Votre invité dans 10 minutes, lui aussi il attend finalement.
Justement c'est François Omri, le président de la CFE-CGC, c'est une des grandes gueules du syndicalisme. Est-ce que les syndicats ont un profil à portrait robot qui leur séduit? Thierry Baudet, évidemment ça leur plaisait. Est-ce qu'il faut un technicien politique? La réponse dans 5-10 minutes à peu près. Et puis ensuite on parlera de cette rentrée sociale. Tous les syndicats se réunissent l'année prochaine. Est-ce qu'il faut une réforme des retraites? On l'abolit, on recommence, on part de zéro. Comment on peut augmenter le SMIC? 1 600 euros, fausse bonne idée. Assurance chômage, la réforme est enterrée. Beaucoup de sujets à voir avec François.
On voit ça avec lui, on débrief à 18h30. On parlera de ces déficits publics qui dérapent, nous a dit Bercy aujourd'hui. Vous verrez qu'on essaie de faire porter le chapeau aux collectivités locales. Et puis on parlera de l'EPR qui, alors officiellement, au milieu de tout ce marasme, a démarré officiellement il y a un peu plus de 2 heures. Comme quoi, vous voyez, en toutes circonstances, il faut garder espoir. Voilà pour le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr.
Good evening business, le journal.
Donc, cette nouvelle alerte sur nos déficits, Bercy l'a dit aujourd'hui, Bercy craint clairement qu'à la fin de cette année, le niveau de nos déficits ne s'élève pas à 5,1% du PIB comme prévu, mais à 5,6%. Écoutez Éric Coquerel, le président de la Commission des Finances de l'Assemblée, qui l'a dit aujourd'hui, il faut de nouvelles recettes, mais surtout pas d'austérité, bien sûr, écoutez.
La question, c'est de savoir comment on va chercher des recettes. Et pour cela, il y a deux manières de faire. Un, il y a d'aller taxer tous ceux qui ont profité des largesses de M. Macron pendant 5 ans, c'est-à-dire les revenus du capital les plus riches. La deuxième chose, vous l'avez dit, c'est pas de travailler plus, c'est de faire en sorte que les revenus du travail soient mieux payés pour qu'à partir de là, il y ait plus de cotisations qui rentrent, plus de fiscalité. Donc c'est, l'idée, c'est qu'il y ait on avantage les revenus du travail, des salariés, des artisans. Troisième manière de bouger les choses, c'est au contraire de ne pas baisser les dépenses publiques, mais d'investir là où on a besoin, et notamment un sujet qu'on a besoin qui est vital, qui est la transition écologique, où on sait qu'on a besoin de dizaines de milliards d'euros supplémentaires. Mais... Or, si vous investissez, vous faites marcher l'activité économique. Voilà. Si vous isolez plus de bâtiments, vous faites marcher le BTP.
Éric Coquerel, ce matin, sur BFM Business. Donc, les déficits dérapent. Et depuis quelques jours, on sent que le gouvernement essaie de faire porter le chapeau en partie aux collectivités locales. Les maires ont bien compris le message et forcément, ils n'apprécient pas du tout la démarche. Astrée Olivier avec Élie Lefaou.
Bercy a les collectivités dans le viseur. 16 milliards d'euros de dérapage prévus pour cette année, un calcul incompris par les représentants locaux comme Jean-François Nebat, co-président de la Fédération Ville-de-France.
C'est particulièrement incorrect de la part d'un gouvernement qui n'est plus légitime. Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai le sentiment d'être sur un terrain de football. On a été taclé par derrière méchamment et on se retourne et la personne, elle n'est plus sur le terrain. C'est malhonnête parce que Bercy connaît l'évolution de nos dépenses et de nos recettes depuis le début de l'année. Nos budgets sont, par définition et légalement, équilibrés.
Parmi les collectivités, ce sont les départements qui sont le plus touchés par la hausse des dépenses cette année. Une augmentation des achats et des charges de près de 10% du fait de l'inflation, explique Bercy. Mais selon Emmanuel Salaberry, co-président de la Commission des Finances de l'AMF, les collectivités n'ont en réalité pas de marge de manœuvre.
On a demandé aux départements d'investir massivement, d'augmenter les personnels soignants, de s'occuper plus de la protection de l'enfance. Et malheureusement, les ressources des départements, elles sont beaucoup axées sur des points de TVA, sur des transferts. Et donc, comme l'activité a ralenti, eh bien, il y a moins de recettes. Et donc, c'est la raison pour laquelle la situation commence à être vraiment très, très difficile.
L'AMF rejette la faute sur l'État qui s'est privé de 56 milliards d'euros de recettes locales sur les 3 dernières années, notamment avec la suppression de la taxe d'habitation.
Voilà donc les déficits qui dérapent, l'État qui met les contraintes sur les collectivités locales qui lui rendent bien, vous l'avez compris. On parlera bien sûr de tout ça avec nos experts à partir de 18h30 sur BFM Business. Pendant ce temps, je vous le disais, Emmanuel Macron semble reparti pour une série de consultations avant de nommer un Premier ministre. Xavier Bertrand est donc revenu dans la course aujourd'hui, même si le Rassemblement national a clairement menacé de voter la censure à l'Assemblée en cas de gouvernement dirigé par ce dernier. Et puis alors, s'il n'y a pas de fumée blanche du côté de l'Elysée, il y en a du côté de Le Père de Flamanville, comme quoi tout est possible. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
Oui, parce qu'au milieu de toute cette agitation, la EDF vient de communiquer pour dire, en quelque sorte, qu'il y a un peu plus de 2 heures, ça y est, l'EPR de Flamanville a démarré officiellement. Il n'est pas à 100%, mais il a démarré, c'est ça Mathieu finalement.
Oui, exactement, c'est un petit événement hein, quand même. On l'a tellement attendu depuis tellement d'années, ouais. Ce démarrage du réacteur de Flamanville, le premier EPR qui démarre en France, hein, dont la construction avait débuté, je le rappelle, en 2007. Le démarrage a commencé hier, il y a eu quelques essais pendant la nuit, et effectivement, le démarrage officiel a eu lieu à 16h. Alors, une puissance extrêmement faible, on est à moins de 1% de la puissance, oui, du réacteur. C'était l'idée d'EDF, c'était de mettre en route le réacteur, cette fameuse réaction nucléaire qui maintenant donc est faite depuis quelques heures. Le réacteur va monter en puissance petit à petit, c'est un gros diesel. Pendant quelques semaines, il arrivera à environ un quart de sa puissance d'ici la fin de l'année, d'ici, ouais, la fin de l'automne, pour être ensuite connecté au réseau, car, ouais, il ne l'est pas encore. Ouais. Et puis, une puissance totale sera atteinte quelque part durant l'année 2025. Mais symboliquement, effectivement, c'est un petit événement pour EDF et l'industrie nucléaire.
Absolument. Il va alimenter, je crois, l'équivalent de 3 millions de foyers.
À terme et à pleine puissance. Donc, ouais, on n'y est pas encore. Il va falloir attendre quand même quelques mois.
Eh ben, on croise les doigts. Puis on en reparlera à 18h30 avec tout ça de l'EPR de Flamanville et puis de la suite, bien sûr, les EPR dans le PAC, évidemment. Là aussi, il y a un grand sujet. Merci beaucoup, Mathieu. Dans l'actualité des entreprises, c'est un événement. Là aussi, le procès au pénal de l'ancien patron de Volkswagen a débuté aujourd'hui en Allemagne après plusieurs années de retard. Procès consécutif, bien sûr, à l'affaire du Dieselgate. Martin Winterkorn est âgé de 77 ans. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison. Bon, et puis une séquence un peu délicate pour Airbus, mais qu'apparemment est en train de rentrer dans l'ordre. Bonsoir Jean-Baptiste Huette.
Bonsoir Guillaume.
On a appris que Cathay Pacific avait cloué temporairement au sol tous ses A350 après un problème de moteur lors d'un décollage. Il y a eu des inspections, ça semble rentrer dans l'ordre, mais il y a eu un petit souci quand même, Jean-Baptiste.
C'est une première pour l'A350, jamais jusqu'à présent le long courrier star d'Airbus n'avait connu des difficultés techniques de ce type. Dans le détail, la responsabilité incombe au motoriste Rolls-Royce et son moteur Trent XWB97, hein, qui équipe les A350-1000. Ce sont les plus gros, ceux qui transportent le plus de passagers. D'un point de vue technique, il pourrait s'agir d'un problème avec des injecteurs de carburant. Cathay Pacific a identifié 15 appareils dont les composants moteurs sont défectueux et qui doivent être remplacés. 3 d'ailleurs sont déjà remplacés, ils sont prêts à voler, et selon Cathay Pacific, tout devrait être rentré dans l'ordre samedi. D'autres compagnies aériennes, comme Japan Airlines, qui possède 5 A350-1000, expliquent qu'elles ont demandé plus de détails à Rolls-Royce, mais qu'elles n'ont pas pour autant interrompu leur A350. Au total, on a une flotte mondiale d'A350-1000 qui avoisine, hein, les 80 appareils. Pour l'instant, Rolls-Royce n'a pas émis de consigne à l'intention des compagnies concernant d'éventuelles inspections. C'est un incident qui vient faire résonner ce que disait Tim Clark, le patron des au mois de novembre dernier, oui. Il avait exprimé ses inquiétudes quant à la durabilité et à la longévité des moteurs Rolls-Royce de la 350. À première vue, c'est pas dramatique, c'est pas gravissime, mais c'est vrai que ces derniers mois, les problèmes de moteurs, tous constructeurs confondus, se multiplient. Et là, il y a clairement un problème de qualité.
Bon, pour Airbus, qu'on va dire, il y a eu plus de peur finalement, puisque ces avions vont redécoller a priori progressivement.
A priori, si ça se confirme.
De Cathay Pacific. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est avec nous sur BFM Business, 18h07. On va sur les marchés. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
On a terminé dans le rouge ce soir à la Bourse de Paris.
Oui, un bon gros éternuement quand même sur les marchés, moins 0,93%, et on redescend sous les 7600 points, 7575 points. Alors, ce n'est pas traduit par une inflation des volumes, on reste à 2,5 milliards d'euros d'actions négociées, c'est des volumes d'été, hein, mais bon, quand même, on réagit à la très forte baisse, hein, du côté de Wall Street en revanche, mais également un certain nombre d'indicateurs économiques, notamment la faiblesse de la demande du côté des matières premières en Chine. On a vu des cours souvent pour le minerai de fer qui baisse de 30% sur un an. Regardez, ArcelorMittal signe la plus forte baisse du CAC 40 à moins 5,16, on est à 20,23€. ST Microelectronics dans les semi-conducteurs qui est entraîné à la baisse par Nvidia qui est en forte baisse à Wall Street aussi. Le titre perd 4,5% à 27,37€. Total Energy, ça aussi c'est un des chiffres du jour, moins 3 1,15 pour Total Energy à 60,51 €, alors que le baril de Brent de Mer du Nord a fortement chuté. On était sous les 74 $ tout à l'heure, on est remonté légèrement au-dessus. En gros, on est au plus bas depuis décembre 2023. Donc voilà pour les cours du pétrole. Sinon, à la hausse des valeurs défensives, Carrefour plus 1,16, 14,78 €, Danone plus 0,92, 63,78 €, et puis des rachats de positions de vente à découvert autour de Téléperformance qui perdait pas loin de 10% en une semaine. Là, le titre reprend 2,7% à 98,46 €. Le CAC 40, donc moins 0,93%, 7575 points.
Merci beaucoup Antoine. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. C'est la mi-séance, le marché a rouvert aujourd'hui. On perd un peu plus d'1% sur le Dow Jones, 41 097 points. L'indice Nasdaq, de son côté, qui perd 2,4% en mi-séance, 17 281 points sur le marché américain. 18h09, le président de la CFE-CGCE, François Omeril, est l'invité d'Eddy Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. A tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est François Omeril, la grande gueule du syndicalisme, président de la CFE-CGC. Bonsoir François Omeril. J'aime bien vous présenter comme ça parce qu'au moins vous êtes cash, vous dites des choses. Donc j'espère que vous allez continuer en cette rentrée. Il faut dire que c'est une rentrée un peu compliquée. Rentrée sociale qui est chahutée, bouleversée par la rentrée politique. J'ai vu des mots que vous avez tenus. Vous avez un casting, vous avez une préférence. Thierry Baudet, le président de le Conseil économique, social et environnemental. Visiblement, vous trouviez que c'était plutôt une bonne idée ?
Non, je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il voit assez largement les autres.
Ouais.
Mais je me désole, comme beaucoup, du fait que cette séquence commence à tirer en longueur et que c'est quand même assez pénalisant. On a coutume de dire la rentrée sociale. Pour nous, c'est très concret, la rentrée sociale. Ça veut dire quelque chose de très précis. On commence des interactions avec le gouvernement, ministère du Travail, première ou premier ministre. On est sur des dossiers, on les travaille, on a des équipes, on les fait travailler dessus, on avance. Bah, aujourd'hui, on n'avance nulle part, en fait. On est quand même un peu bloqué. Et moi, je prétends que c'est quand même, pour le coup, un problème. En disant ça, je prends parti pour personne. Simplement, je veux faire observer qu'un pays sans gouvernement, c'est un pays qui n'est pas en capacité d'affronter les problématiques particulières qui se posent dans tout un tas de territoires, dans tout un tas d'activités. Moi, j'ai plein d'exemples qui pourraient illustrer cela. Moi, je crois qu'il ne faut pas que ça dure encore trop longtemps.
Ça pénalise notamment le monde des affaires, les entreprises. On voit que le taux de faillite a remonté. Est-ce que pour vous, cette instabilité politique est en train de peser lourdement sur les affaires?
Ah oui, moi je dis que oui. Et on peut trouver, je ne vais pas en citer ici, mais on peut trouver tout un tas d'exemples d'entreprises aujourd'hui, de petite taille ou de taille intermédiaire, qui sont confrontées à des problématiques économiques assez graves, conjoncturelles pour certaines qui sont en redressement judiciaire, pour lesquelles on cherche un repreneur, pour lesquelles le repreneur va demander des garanties de l'État, une intervention, peut-être une aide à travers un prêt ou une participation au capital. Voilà, tout ça sont des cas extrêmement concrets. Eh bien, je veux dire, rien n'est possible sur ces dossiers-là, parce qu'évidemment, on n'a pas d'interlocuteur. Alors, c'est un problème. Et ce problème met aussi en perspective le fait que, pour le coup, sur ce sujet-là, et avec le ministère de l'Industrie, on avait plutôt pas mal avancé. On part de très très loin, il y a plusieurs années. Et donc, il y a des choses qui ont commencé à se reconstruire. Et on avait, ces derniers temps, je l'ai toujours dit, on avait plutôt des bonnes relations. On arrivait, comme on dit entre nous, à sortir des dossiers. Tout est à l'arrêt aujourd'hui.
Vous regrettez la majorité précédente, quoi. La majorité dite présidentielle.
Moi, je regrette le travail qu'on a pu faire, par exemple, avec Roland Lescure ces derniers temps et avec son équipe. Ouais. Voilà.
Mais si vous aviez
vous demandez un nom, je le cite.
Oui, pour être Premier ministre.
Non, je le cite comme étant quelqu'un avec qui on a fait du bon boulot.
Le casting idéal, c'est quoi? C'est un profil technique ou un profil politique à vos yeux, François Omeril? Au jour d'aujourd'hui, à ce soir, où ça y est, c'est Xavier Bertrand, on a l'impression d'avoir des illusions, vous savez, dans une bouteille, il y en a qui remontent, d'autres qui descendent.
Ouais, ok. Ben moi, je prends la question. Le profil idéal, c'est un Premier ministre avec qui on a de vraies marges de manœuvre pour travailler, pour avancer.
Et donc,
si c'est, moi, je vois bien ce qui se passe, les commentaires et tout ça, et je suis assez d'accord. Si le président de la République il cherche un super directeur de cabinet, on va forcément se planter. La Constitution, elle emporte avec elle un principe de fonctionnement. Ouais. S'il cherche un collaborateur, ben en fait, non, nous, ça nous intéresse pas. Nous, organisation syndicale, moi, François Ombril, au nom de la CFE-CGC, je veux travailler avec quelqu'un, être en capacité de m'engager, d'engager mon organisation sur des sujets, sur des secteurs pour lesquels, en face de moi, j'aurai un interlocuteur qui décide. Voilà, je ne suis pas un pantin non plus.
Parmi les noms qui ont circulé, il y a celui de l'actuel président de Renault, Jean-Dominique Senard, Premier ministre ou ministre du Travail, ça serait une bonne idée.
Alors, il se trouve que moi, je le connais bien, Jean-Dominique Senard, parce que c'est un ancien de Péchiné, moi aussi. Je suis un des enfants perdus de Péchiné. Moi, Jean-Dominique Senard, pourquoi pas? Mais à lui, la même question va être posée. Quel est votre secteur d'intervention? Quel est votre programme? Quels sont les sujets sur lesquels vous aurez un vrai pouvoir de décision et pour lesquels on va pouvoir développer un travail en interaction avec vous?
Alors, en attendant, le 7 septembre, il y a une manifestation avec... plutôt politique. Dans un premier temps, Sophie Binet, la CGT, avait dit qu'elle irait. Finalement, elle n'y va pas. Vous n'y allez pas non plus.
Non, bien sûr que non.
Lundi prochain, en revanche, là, lundi 9, vous vous réunissez.
Alors, on fait
les syndicats, sans le patronat, évidemment.
On aurait pu aussi le faire avec le patronat. On va le faire, d'ailleurs. Ouais. On le fait en différentes occasions avec les organisations patronales. On n'a pas de problème avec ça.
C'est quoi l'ordre du jour?
L'ordre du jour, c'est l'ordre du jour de la rentrée. Donc, comme toujours, un peu comme quand vous faites votre première revue éditoriale à la rentrée, on fait un petit peu le point de tous les sujets,
comment
on les organise et comment on les priorise. Oui. Pour nous, c'est très simple. La question va être posée de savoir comment, dans ce panorama politique un peu flou, comment les organisations syndicales vont s'exprimer de façon claire et prioriser un certain nombre de sujets. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, on a fait l'analyse depuis assez longtemps que dans ce marasme, je reprends le mot, forcément, la population, l'opinion, ils attendent des organisations syndicales un message clair et on va dire plutôt unifié. Quand je dis unifié, c'est pas que tout le monde pense pareil, mais que on est capable de s'exprimer en commun sur un certain nombre de sujets et sur un certain nombre de priorités.
Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, on est plutôt dispersé pour l'instant.
Non, on y arrive plutôt bien. Regardez, dans une négociation qui ne s'est pas terminée malheureusement, on a été capable ensemble de faire 10 propositions. Vous savez, la diversité des opinions, ça n'empêche pas le respect des différences. Et l'expression en commun de cette diversité.
C'est quoi votre agenda pour vous, François Ombril, c'est quoi? C'est l'emploi senior? C'est la réforme des retraites? C'est le SMIC? C'est quoi? Pour vous, là, lundi, vous arrivez et vous allez mettre vos priorités sur la table. Quelles sont-elles?
Alors, à l'occasion des élections, chaque parti qui prétendait attirer le plus de voix a fait un certain nombre de propositions, a donné des tendances. Ça a créé un climat. Moi, je vais rappeler les positions de la CFE-CGC, historique sur le sujet, la problématique sur la retraite, pour répondre là-dessus. Nous, on était contre la réforme des retraites. Quiconque viendra vers nous en disant « on va l'abroger », je dirais, pas de problème, faisons-le. Pour tout vous dire, j'étais moi-même partisan à ce qu'on ouvre les possibilités de faire un référendum pour, si possible, par voie référendaire, abroger cette réforme. Ceci dit, la priorité reste la même, comme je l'ai exprimé depuis 2 ans. La question, c'est l'emploi des seniors. C'est la question principale, la question que le gouvernement n'a pas abordée, question sur laquelle chacun, là encore, a des propositions. Nous, on en a, plus ou moins sophistiquées, mais il nous semble que c'est l'urgence absolue qu'on considère la chose du côté du marché du travail, que du côté du fonctionnement des entreprises, que du côté, par ailleurs, des problématiques individuelles qui sont rencontrées tant dans le travail que dans le non-emploi.
L'emploi des seniors, à quelles conditions ça vous paraît? Parce qu'il en a parlé, Patrick Martin, à la REF où nous étions. Qu'est-ce qui est, pour vous, quelles conditions pour signer un accord?
Pour signer un accord, il faut tout simplement qu'on ait d'abord un constat un peu partagé du moyen par lequel chacun doit s'engager. Et pour moi, il faut que l'État ouvre un cadre dans lequel on pourra le solliciter. D'accord. Parce qu'il n'y aura pas de solution s'agissant de l'emploi des seniors et donc du maintien des seniors dans l'entreprise, si on n'a pas en tête le schéma suivant, c'est que quelqu'un qui aborde la dernière phase de sa carrière, après 55 ans, il est payé à 100%, quand il sera en retraite, il aura globalement un revenu de 50% de ce qu'il a en activité, et il est à 100% d'activité, il va passer à 0%. Ayez en tête ces deux chiffres-là. 100% d'activité, 100% de salaire. Et il passe à 0% d'activité, 50% de salaire. C'est donc cette courbe-là sur laquelle il faut travailler.
D'accord.
Et en y travaillant, il faut travailler aux conditions dans lesquelles on organise cette dernière partie.
Avant d'aborder le dossier
carrière.
Des retraites, parce que là aussi, vous l'avez mentionné, c'est un point très très important. Est-ce qu'il faut faire table rase de la réforme qui a été promulguée le 14 avril 2023 ou est-ce qu'il y a des concessions possibles? Vous allez me dire ça dans un instant. Juste, mobilisation le 1er octobre, il y aura tous les syndicats, vous y serez?
Alors moi je ne vais pas vous répondre aujourd'hui parce que de toute façon on a une instance à la fin du mois de septembre que je vais consulter sur le sujet. Ce que je peux vous dire c'est que d'ordinaire on n'y est pas dans des manifestations de rentrée qui sont parfois souvent un peu des manifestations fourre-tout et qui sont entre guillemets des manifestations par anticipation. Mais compte tenu du contexte et par respect pour mes instances, je ne vais pas vous affirmer cela.
D'accord.
Mais je vous donne quand même
priori,
une indication.
D'accord.
Je vous donne une indication préalable.
Voilà, vous n'y serez pas. Sur la réforme des retraites, est-ce qu'il y a des concessions possibles pour la CFE-CGC ou pas?
Moi, je vais vous dire.
Il y a des membres de la majorité, pardon, camp présidentiel, qui ont dit on est prêt à. Voilà, du moment qu'on ne touche pas à 64 ans, on est prêt à faire des concessions.
Tout ça, c'est n'importe quoi, en
d'accord,
fait.
D'accord, ok.
Moi, pour tout vous dire, je suis excédé par les prises de position de tous les politiques sur le sujet qui ne connaissent pas le dossier et disent vraiment n'importe quoi. Il se retrouve que nous, organisation syndicale, on a beaucoup travaillé ce dossier et on est porteur d'un discours de réalité sur la question qui s'exempte de toute idéologie. Donc, le problème de cette réforme, c'est que le décalage à 64 ans n'était pas justifié sur le plan économique. Il était surtout très injuste. Le vrai problème qu'il y a, c'est
en termes d'économie, il est justifié.
Non, mais pas du tout. Mais pas du tout. En fait, on s'est fait avoir parce que l'État, le gouvernement, a parlé du système des retraites au singulier. Mmh. Mais la vérité, c'est que il y a 3 ans, on nous balançait dans la tête en disant il y a 42 régimes, c'est trop compliqué. Ouais. Aujourd'hui, plus personne n'en parle.
Mais pourtant, c'est vrai. Ça,
nous,
c'est
à l'époque,
vrai.
On plaidait que cette complexité était nécessaire pour comprendre le fonctionnement. Aujourd'hui, plus personne n'en parle parce qu'évidemment, ça n'arrange personne. Le seul problème, la vérité, il est que dans l'ensemble des dispositions, le problème, il est sur le régime des fonctionnaires. L'État ne veut plus payer sa part patronale, entre guillemets, sur le régime des fonctionnaires.
Mais parce que, il veut bien que les entreprises le payent. Hein.
Voilà, parce que la démocratie lui est défavorable. Mais moi, je dis, à ce moment-là, si c'est un problème, on en parle. Mais vous n'allez pas faire travailler tout le monde plus au motif que vous voulez diminuer votre intervention sur la prise en charge par l'État
ailleurs,
du versement des pensions pour les
ailleurs,
fonctionnaires.
Partout ailleurs, on travaille plus. Il n'y a pas forcément une baguette magique française.
Alors moi je dis que là ça se discute, moi j'adore qu'on relance le débat et je pense qu'on va le relancer.
Le faire,
sur ces questions-là, il y a beaucoup à dire.
Donc,
comme vous le savez, quand on se compare avec la Hollande, l'Allemagne, le Japon, etc., vous savez qu'en France, l'âge moyen de départ, l'âge moyen réel de départ, il commence à tangenter les 64 ans parce que de toute façon, il y a des dispositifs atténuateurs qui sont à l'œuvre actuellement et le fait de passer à 43 années de cotisation, de toute façon, mécaniquement, ça va avoir un impact sur l'âge réel.
Est-ce qu'il faudrait raisonner en trimestre? Ce serait beaucoup plus simple.
Mais
vous
c'est déjà le cas pour la retraite de base. Hein, en trimestre.
Oui.
C'est un système qui est complexe, je le reconnais, mais vous savez, c'est pas plus compliqué de comprendre le système des retraites que de régler un moteur diesel ou n'importe quoi. Hein. Donc, vous savez, les Français sont intelligents.
Juste en résumé, François Ambril, en résumé, vous dites il n'y a pas de concession possible, c'est on repart de zéro d'une feuille blanche. Sur la réforme des retraites.
Moi, je veux qu'on réinjecte un peu d'intelligence et de respect
donc,
des points de vue dans ce dossier.
Est-ce que vous voulez qu'on abroge, vous demandez l'abrogation de la loi?
Moi, je pense que c'est absolument indispensable.
D'accord.
Il n'y a pas d'autre solution. Mais je ne suis pas contre le fait qu'on ouvre le dossier, pour le coup, et qu'on examine les problèmes.
Okay.
Vous me trouverez toujours à l'endroit où il est identifié qu'il y a un problème et qu'il faut que chacun réfléchisse et fasse des concessions pour pouvoir aider à régler ce problème. Moi, je suis totalement dans cet axe-là.
Puisqu'on est dans l'enterrement des réformes, l'assurance chômage, donc les règles ont été prorogées jusqu'au 31 octobre, on fait quoi après?
Eh bien voilà, très très bonne question. Moi je vais vous dire ce que j'ai toujours dit sur le sujet. Ce projet de réforme était un projet absolument scandaleux, puisqu'il consistait finalement... vous l'avouerez, c'est assez extraordinaire. Le régime de l'assurance chômage, c'est le régime assurantiel, j'allais dire, le plus bénéficiaire qui puisse exister aujourd'hui. Ouais. Je pense que toutes les compagnies d'assurance rêveraient d'avoir un régime avec un tel niveau de cotisation et un niveau de prestation d'une certaine façon aussi faible. Ouais. Entre les deux, qui se sert, c'est l'État. L'État a prévu de prélever 12 milliards d'euros dans l'assurance chômage, comme s'il n'y avait pas du désendettement à faire. Donc en fait, ce projet, c'est ni plus ni moins que, tout en maintenant les cotisations des salariés au même niveau, que de diminuer les prestations.
C'est intéressant, ça.
Vous avouez que c'est fort de café.
Vous reconnaissez que c'est un peu un nouveau raisonnement. Vous avez tout à fait raison, hein, c'est effectivement.
Je veux dire, c'est sur la table. Après, et pour finir sur le sujet, là encore, je ne veux pas me défausser de mes responsabilités, il y a probablement un problème aujourd'hui dans la société, qui est le désattachement des gens vis-à-vis des entreprises et du travail. Moi, je ne veux pas le méconnaître, ce problème, puisqu'il existe, il est d'ailleurs pour partie générationnel, mais pas seulement. On a la problématique effectivement du début de carrière, du difficulté pour les jeunes, et y compris les jeunes extrêmement diplômés, ben finalement de rentrer dans une carrière, comme on disait à mon époque. Et puis, il y a cette problématique qu'on a évoquée à l'occasion des retraites, de gérer la fin de carrière. Ouais. Mais tout ça, c'est sur la table. On en parle. On se respecte.
Donc, elle est enterrée. Mais alors, à votre avis, le 31 octobre, et parce que le temps qu'il y a un ministre du Travail qui soit nommé, qu'il prenne ses marques et tout, il va se passer quoi le 31 octobre ?
Vous voulez parler de la fin de la période d'assurance chômage ? Écoutez, vous savez, est-ce qu'on a prorogé de 3 mois, encore 3 mois ? S'il s'agit de faire quelque chose d'intelligent, de constructif, dans lequel chacun des négociateurs va se retrouver dans le résultat, on peut attendre un petit peu plus. S'il s'agit de faire n'importe quoi, comme ça a été le cas pour la réforme de Gabriel Attal, il vaut mieux attendre un certain nombre d'années.
Juste dernier point, parce que là, on est vraiment autour de l'actualité sociale, au cœur de l'actualité sociale sur l'augmentation des salaires, et notamment ce fameux SMIC à 1 600 euros, qui est une condition sine qua non, notamment pour LFI. Est-ce que ce n'est pas une fausse bonne idée, le SMIC à 1 600 euros ?
Pour
parce
celui...
qu'on crée cette trappe à pauvreté, que vous connaissez
mais
bien
je
moi.
Comprends la question, là encore, je ne vais pas me défausser. Pour celui qui est au salaire minimum, c'est une bonne idée.
Oui.
Il faut...
Celui qui est juste au-dessus,
il faut regarder ça.
Moins bonne idée.
Après, moi, j'entends bien les employeurs et leurs représentants qui, évidemment, vous dire c'est une catastrophe. Mais ils le disent depuis 250 ans, peut-être
oui. 2500 ans. Ou le salarié qui, lui, n'est pas au SMIC, alors, et met à 1 600 euros. Alors, vous voyez
moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une trappe à bas salaire, ça, oui. c'est vrai. Oui. Parce que les dispositifs d'aide aux entreprises qui sont ciblés aujourd'hui sur les bas salaires, moi, je pense qu'on a éprouvé la limite du système. Il faut réfléchir autrement l'intervention de l'État, qui est une intervention financière vis-à-vis des entreprises, pour améliorer leur compétitivité. Mais là encore, je le dis depuis des années, malheureusement, ce dossier n'est jamais ouvert. Ça, c'est,
il est en train de
ça, c'est la première chose. Ouais. Et par ailleurs, il faut travailler sur le salaire. Ça, c'est le salaire en haut de la fiche de paye. Il faut travailler aussi sur le salaire réel, c'est-à-dire ce qui reste pour vivre une fois qu'on a payé toutes les injonctions, le logement, etc. Moi, je veux qu'on ouvre le dossier du logement. Parce que ça, pour le coup, effectivement, plus le salaire est modeste...
Là, je pense que tout le monde est d'accord.
Et le salaire est extrêmement modeste, et y compris pour des salaires un peu plus élevé que le SMIC, oui. quand on voit les niveaux de coûts du logement aujourd'hui.
François Aurel, vous avez 30 secondes pour répondre, c'est pas beaucoup. Les 500 milliards, c'était l'argument de Patrick Martin au MEDEF, les 500 milliards de cotisations qui pèsent sur les travailleurs comme sur les entreprises, sur les salariés, est-ce que pour financer le système social, est-ce qu'il ne faut pas trouver peut-être, retirer 100 milliards quoi, et élargir la base ?
Eh bien, je suis d'accord. C'est un sujet,
formidable.
Il faut qu'on y travaille ensemble. Je rappelle que dans les cotisations, il y a des cotisations qui sont contributives et il y a d'autres qui ne le sont pas. Et il me semble, et c'est d'ailleurs une proposition que fait la CFE-CGC depuis très très longtemps, les cotisations qui sont non contributives, comme les cotisations sur la santé, on doit penser à une assiette différente.
Voilà. Ah ben tiens, vous voyez, petit à petit... Ça s'en trouve.
Voilà.
On est en train de... C'est des chevaux sociaux si compliqués, on est en train de défaire la plotte.
Mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on se respecte, tout simplement.
Merci beaucoup, faut attendre le ministre du Travail. Merci beaucoup François Omri, en tous les cas, d'être venu
Merci
faire votre
vous.
Entrée ici. Président de la CFE-CGC.
Good Evening Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.
Allez, il est 18h34, c'est parti pour les experts BFM. Première partie des experts jusqu'à 19h en direct pour décrypter l'actualité économique. Emmanuel Le Chypre est avec nous ce soir, bien sûr. Bonsoir. Emmanuel. Edwige, bien sûr, est resté avec nous. Rebonsoir Edwige.
Bonsoir Emmanuel.
François Omeril, président de la CFE-CGSE, qui, comme nous tous, attend avec impatience le nom du futur Premier ministre. Et il a dit une rentrée sociale sans gouvernement.
C'est pas une rentrée sociale.
C'est pas une rentrée sociale,
ouais.
Finalement.
Ouais, il a dit, on a notre agenda, on a nos rendez-vous. voilà, non, mais c'était intéressant de dire, du coup, il n'y a pas rentrée sociale, donc une sorte de frustration. Par rapport à ce qui se passe en chaque rentrée. Alors, le point, j'aurais presque envie de dire plus sérieusement, parce que ça peut décaler peut-être d'un mois. Ce qui est embêtant, il l'a dit et redit, il l'a dit même en off un peu avant, c'est que du coup, il n'y a plus personne au gouvernement. Eh bien, il y a des tas de dossiers où on a besoin de l'aide de l'État. On sait que le taux des faillites augmente, il y a des sociétés qui sont en difficulté, et que là, il n'y a plus personne. Donc, même lui, il n'y arrive pas. Donc, il dit ça c'est quand même très embêtant. Ça ne peut plus durer.
Oui. Les syndicats, cela dit, commencent à se mettre en ordre de marche. Vous le rappeliez, il y a une réunion entre syndicats lundi prochain, c'est ça ?
Oui, lundi prochain.
Le 9 septembre, alors ?
Le 9 septembre, pour fixer un peu leur ordre du jour. Chacun aura son ordre du jour pour voir s'ils arrivent à se mettre d'accord. Là, vous savez, il y avait cette manifestation le 7 septembre. Ouais, dans un premier temps, la CGT avait dit qu'elle irait. Finalement, elle n'y va pas. C'est trop politique. Et François Omeril dit, non, on n'a aucune raison d'y aller. Il y aura peut-être une manifestation le 1er octobre. Il a déjà dit que non. Enfin, lui, il ne voit pas l'intérêt pour l'instant. On n'en est pas là. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il se passe quelque chose. Ouais. En fait, ils ont envie qu'il se passe quelque chose parce qu'il y a des sacrés dossiers sur la table.
On a rarement vu une rentrée sociale comme celle-ci. Enfin, elle est indéfinissable par définition, justement, Emmanuel. Là,
c'est tout sauf une rentrée, en fait. C'est ça qui effectivement est compliqué. Alors d'abord,
ça fait longtemps, cela dit, que les syndicats ne font plus la rentrée sociale. Certains ont dit, avec le rendez-vous du MEDEF fin août, c'est le MEDEF qui préempte la rentrée sociale, finalement, depuis des années.
Oui, mais après ça discute.
Oui, ça discute, au moins ça discute, et ils sont là-bas.
Alors, d'abord, ça peut toujours discuter entre le MEDEF et les syndicats de salariés, parce qu'après tout, c'est pas toujours que le gouvernement qui est visé par les revendications, les mécontentements, etc. Et il y a sans doute beaucoup de choses à se dire aujourd'hui entre entreprises et syndicats, d'autant que on voit bien on va peut-être avoir un mouvement de balancier un peu moins favorable à la politique de l'offre, et donc va falloir que le MEDEF affûte à nouveau ses crocs pour défendre ses positions, ce qu'il n'a pas eu tellement à faire pendant 10 ans avec une politique de l'offre qui était plutôt favorable.
D'où l'appel du pied aux partenaires sociaux la semaine dernière à la REF, justement, pour s'en mettre autour de la table pour évoquer. Ouais. Ce qui a fait sourire beaucoup de syndicats, qui a dit ils viennent en fait essayer de quémander, de négocier avec nous ce qu'ils ne pourront plus négocier forcément avec le gouvernement, notamment les allègements de charges.
Oui, mais là, ils essayent. C'est ce qu'on disait hier, pardon Emmanuel, ce qu'il disait, c'est que par exemple le MEDEF, lui, il est en train de travailler au corps les députés sur place, dans les différentes circonscriptions, pour essayer de faire un lobbying pour ensuite, ça va monter à l'Assemblée nationale, et il y a quand même des gros dossiers sur la table, sur la question de la réforme des retraites, la question...
Il y a non seulement des dossiers en attente, mais il y a aussi malheureusement beaucoup de sujets sur lesquels il y avait des textes qui étaient sur le point d'aboutir au moment de la dissolution, et pour lesquels il va falloir presque finalement repartir de zéro, c'est-à-dire retrouver des nouveaux interlocuteurs, des nouvelles équipes, etc.
Tout ce qui est agriculture, logement.
C'est pas seulement la mise en pause, c'est-à-dire qu'il y a, tout un tas de...
Vous me direz, ça tombe bien pour les syndicats parce qu'ils veulent, repartir à zéro sur la réforme des retraites et sur la réforme de l'assurance chômage.
Alors si on fait un rapide inventaire justement sur la réforme des retraites, il n'a pas bougé d'un iota, il veut l'abroger. Voilà, abrogation, c'est ça.
Abrogation, même s'il a dit... Alors là, c'est un petit peu contradictoire, parce qu'il dit abrogation, et en même temps, on voit bien qu'il est prêt quand même à discuter sur tel ou tel point. Et puis, sur l'assurance chômage, il a été assez cash. Moi, je trouve que c'est un raisonnement qu'on sait ici, parce qu'on est avec des différents experts. Mais un syndicat qui tient comme ça, en disant l'assurance chômage, le problème, c'est pas ça, c'est que l'État ne veut plus payer pour tout le secteur public. Donc, à partir de là, il ne veut plus payer 12 milliards, donc il faut faire une réforme des retraites, mais de l'assurance chômage. Mais sinon, il n'y a pas de problème.
Hein. D'acheter cet argument ou pas, Emmanuel ? Voilà, l'État ne fait plus...
Ce qui est quand même effrayant, c'est que, ça fait 10 ans qu'on tourne autour des deux ou trois mêmes sujets, qu'on les remet sans cesse sur l'ouvrage, alors que ce sont des débats qui, à l'étranger, sont tranchés depuis longtemps. C'est-à-dire, cette histoire de réforme des retraites, revenir sur la réforme, alors qu'on se rend compte que ce sera de plus en plus compliqué, notamment parce que dans cette réforme, il n'y avait pas que des aspects négatifs, il y avait aussi des nouveaux acquis. Il y avait quand même, d'une certaine façon, dans cette réforme des retraites, la correction de pas mal d'inégalités qui avant étaient quand même assez
clients. Alors, ce qu'il dit...
Et donc, encore une fois, on refuse de voir la réalité en face. Il y a d'autres sujets, sans doute, où il y a une autre façon de faire une nouvelle réforme des retraites, peut-être jouer sur d'autres paramètres, mais revenir sur cette réforme pour reculer, non, on sait qu'elle ne sera pas suffisante. Sur quoi on discute pour une nouvelle réforme des retraites? Oui, mais ce n'est pas là-dessus qu'on part.
Il a dit un point important, il a dit le problème en France, c'est l'entrée dans le monde du travail. Ça, on sait, c'est pour les jeunes.
Ouais.
Et puis, la sortie, c'est que pour l'instant, vous gagnez 100, après vous allez gagner 50. Vous travaillez 100, vous allez travailler 0. Ouais. Donc, il faut peut-être trouver, à partir de 60, 62 ans, une ligne de sortie qu'il faut redéfinir.
Bien, voilà pour François Aubryl qui est donc venu présenter ses doléances en attendant un nouveau Premier ministre, bien sûr. Pendant ce temps... Nos déficits qui se creusent. Bercy qui a publié aujourd'hui ces documents, vous savez, dans lesquels Bruno Le Maire dit craindre que le niveau des déficits publics à la fin de cette année ne soit pas à 5,1%, mais à 5,6% du PIB. Écoutez, Éric Coquerel, patron et LFI de la Commission des Finances, qui était ce matin sur BFM Business, qui dit « Ah bah, faut de nouvelles recettes !» Il ne faut pas que ça passe par de l'austérité, écoutez.
La question, c'est de savoir comment on va chercher des recettes. Et pour cela, il y a deux manières de faire. Un, il y a d'aller taxer tous ceux qui ont profité des largesses de M. Macron pendant 5 ans, c'est-à-dire les revenus du capital les plus riches. La deuxième chose, vous l'avez dit, c'est pas de travailler plus, c'est de faire en sorte que les revenus du travail soient mieux payés pour qu'à partir de là, il y ait plus de cotisations qui rentrent, plus de fiscalité. Donc c'est, l'idée, c'est qu'il y ait on avantage les revenus du travail, des salariés, des artisans. Troisième manière de bouger les choses, c'est au contraire de ne pas baisser les dépenses publiques, mais d'investir là où on a besoin, et notamment un sujet qu'on a besoin qui est vital, qui est la transition écologique, où on sait qu'on a besoin de dizaines de milliards d'euros supplémentaires. Or, si vous investissez, vous faites marcher l'activité économique. Voilà. Si vous isolez plus de bâtiments, vous faites marcher le BTP.
Oui, mais son grand axe pour renflouer les caisses, c'est quand même taxation du capital et augmentation des salaires. Quand même, il reste sur son logiciel, Éric Coquerel, fondamentalement, dans cette histoire. Hein,
ce qui est assez, déroutant, c'est qu'on voit bien qu'il va falloir que tout le monde fasse finalement des concessions sur son corpus idéologique si on veut arriver à une forme de gouvernement qui fonctionne. Et on voit bien que tout le monde est arc-bouté sur ses positions. C'est-à-dire ce que dit Éric Coquerel, il dit exactement la même chose qu'il y a 2 mois, qu'il y a 6 mois, qu'il y a 2 ans. Donc là, on voit pas très bien en fait comment on va pouvoir arriver encore à quelque chose. Parce que moi, il faut absolument un gouvernement pour préparer le budget 2025, etc. Mais bon, d'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui nous dit que finalement, en fonction de là où sera placé le curseur politique de ce futur gouvernement, qu'est-ce qui nous dit qu'on va aller dans la direction de la réduction des déficits, etc.
Ça va, tout va se jouer au Parlement, tout va se jouer à l'Assemblée à partir du 1er octobre prochain, et là tous les coups sont permis, très clairement. Enfin, je veux dire,
C'est clair, non, mais en mettant là, Emmanuel a raison, c'est-à-dire que c'est sûr que si on a un gouvernement LFI, ça ne sera pas la même chose que si on a un gouvernement fait par Thierry Baudet ou Xavier Bertrand.
Oui.
Donc c'est là où il y a des choix budgétaires, c'est pour ça que le budget est si important quand même dans la vie de la République. Là, mais par exemple, est-ce qu'il faudra, je rebondis sur ce que disait Éric Coquerel, est-ce qu'il faut un ISF vert, proposition du camp présidentiel, évidemment, l'économiste favori d'Emmanuel Macron. C'est là où il va avoir des décisions quand même.
Qui faille augmenter les recettes
structurelles.
Je vois pas comment on peut y échapper. Ça, manifestement. Mais après.
Oui, mais comment?
Après,
il y a un choix, t'as deux choix.
C'est ça. C'est
mais baisser les dépenses.
Après,
ça
la palette.
Pas, ça. Voilà.
Les économies ou t'augmentes les impôts?
Voilà. Non, mais de toute façon, il faudra faire évidemment les deux. Et la réalité, c'est que oui, il va sans doute falloir augmenter les prélèvements. Mais après, la palette des instruments possibles en fonction, là encore, de la couleur du prochain gouvernement. On voit bien, par exemple, que si on a un gouvernement qui est plutôt teinté droite, enfin centre-droit, parce qu'on n'ose même plus dire droite, ce sera plutôt centre-droit. On voit bien, par exemple, qu'il y a une préférence pour tout ce qui concerne la TVA, etc.
Oui.
Alors que si vous êtes sur un gouvernement qui est plutôt teinté à gauche, on voit bien qu'on ira plutôt vers la progressivité de l'impôt sur le revenu, la taxation des grandes fortunes, des successions, etc. Donc, là encore...
Les
chiffres. Qu'il faille augmenter les recettes, oui, mais les options...
Les chiffres sont enfin effrayants, parce qu'on nous dit 5,6 potentiellement...
Voire
6,2 à la fin de l'année 2025. Éric Coquerel dit, sans économie, c'est 60 milliards d'euros d'économie pour tenir les objectifs initiaux, qui voyaient le PIB et déficit à revenir à 4,1% fin 2025.
Oui, mais quand vous avez les recettes de l'immobilier qui s'effondrent...
Oui,
quand...
oui c'est vrai.
Bah, vous voyez, c'est
la TVA, parce qu'on se consomme
à ça. La dissolution a un impact direct sur
l'activité,
sur ses déficits. Hein. Oui. Très clairement, on aura perdu un trimestre de croissance au total.
Oui, en même temps, il y a un effet Jeux Olympiques, un peu comme le rappelait hier Dominique Schellcher, le patron de Système U.
Alors, l'effet Jeux Olympiques, il a été calculé par l'INSEE très vaguement à partir des estimations de ce qui a été fait à Londres, etc. C'est quand même assez...
Non, je ne sais pas, c'était la grande discussion qui disait ça.
On fera les comptes, évidemment, à la fin de l'été, peut-être un peu plus tard. 18h45, Mathieu Pechberti arrive sur ce plateau. Bonsoir Mathieu, parce que figurez-vous, mesdames, messieurs, qu'au milieu de tout ça, c'est une date.
Bonsoir.
Dans l'indifférence générale, dans ce marasme ambiant, l'EPR de Flamanville a démarré officiellement il y a quoi, un peu plus de 2 heures.
1993.
Il y a 3 heures, exactement.
Il y a 3 heures, Mathieu, c'est ça.
C'est le premier réacteur nucléaire français qui démarre depuis 1997.
Civaux.
Ils font la construction et le démarrage. Ouais. Pardon.
C'est 93.
C'est le premier du siècle en France, voilà. Ouais. Sûrement pas le dernier. Non, bon, alors c'est symboliquement important. On a tellement dit de mal, j'ai tellement dit de mal sur ce réacteur aujourd'hui que je suis dans l'obligation de saluer effectivement ce démarrage qu'on a tant attendu, qui était prévu pour 2012 au départ. Et puis une dizaine de retards successifs, un surcoût exorbitant, on est à près de 20 milliards d'euros.
Et donc, voilà.
Aujourd'hui, il y a eu ce qu'on appelle la divergence, la réaction nucléaire, la fission, qui avait commencé un peu cette nuit, mais ce sont des grosses machines, donc ça se démarre pas en un coup de clé. Et donc le réacteur, effectivement, la réaction nucléaire a été s'est réalisée un peu avant 16 heures, et donc le réacteur marche. Alors très faiblement, il y a à peine 1% de puissance. Mais c'est très normal, la puissance va augmenter au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année. On va atteindre un palier, il y a deux paliers à avoir, 25% de puissance. Une fois que le réacteur sera à 25% de sa puissance, il sera connecté au réseau. Donc l'électricité sera envoyée sur le réseau. Et là, ouf, on aura un nouveau réacteur, le 57e, puisqu'au départ, il y en avait 58. On a fermé les deux de Fessenheim.
Oui.
Et donc, on remonte à 57.
Et en même temps, il y a beaucoup d'énergie, il y a trop d'énergie, non ?
Et alors,
donc, il n'arrive pas trop
et alors,
tard.
Non, il n'y a pas trop d'énergie parce que EDF est dans une phase de réaugmentation de sa cadence de production. Ils partent de tellement loin, on a envie de dire. Souvenez-vous, en 2022, avec les nombreux arrêts de réacteurs, que le mot d'ordre chez EDF et du PDG d'EDF, c'est augmenter la production. Donc, vraiment, il faut faire tourner les machines à plein régime. Et EDF en a bien besoin parce que je vous rappelle que l'entreprise a encore 57
ans. Emmanuel Le Chypre.
Pardon, je vais redevenir un peu.
Non, mais c'est vrai, critique, c'est vrai qu'en ce moment, Edwige a raison, EDF exporte massivement.
Oui, massivement. Ouais.
Donc, il faut quand même se réjouir de la mise en œuvre de ce réacteur. On voit bien aujourd'hui dans le monde entier que tous les parcs qui ont du nucléaire. Et plus ils en ont, sont des parcs qui produisent de l'électricité à un prix qui est quand même globalement compétitif, et notamment pour des raisons de stabilité de la production. Après, ça va représenter 2% de la production d'électricité française. C'est pas ça qui va avoir un impact sur les prix, les consommateurs
le verront pas. C'est vers la suite.
Mais c'est quand même, effectivement, c'est quand même une sécurité supplémentaire.
Alors, c'est justement vers la. Oui, Edwige, je voulais
dire. J'en profite juste pour dire que justement, Emmanuel Vargon, la présidente de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, sera sur notre plateau. La semaine prochaine.
On aura plein de questions à lui poser à ce sujet. La question d'après, justement, c'est sur la suite. 6 EPR. Pas formellement commandé par EDF à ce stade, c'est ça, Mathieu ?
Non, alors. Donc, on attend effectivement les 6 EPR que Emmanuel Macron a promis, même s'il s'est même quasiment engagé sur 8 autres d'ici 2050. Mais enfin, bon, on a le temps. On va d'abord commencer par les deux premiers qui seront donc construits sur le site de Penly, en Normandie, pas très loin de Flamanville, d'ailleurs. Et là, formellement, EDF attend le bon de commande, la commande ferme du gouvernement avec la signature. Ce bon de commande aura lieu. Il y a une telle promesse politique. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que cette année 2024 a été dédiée chez EDF et avec le gouvernement qui est son premier actionnaire, son seul actionnaire, à l'élaboration de, j'ai envie de dire, le business plan, c'est-à-dire quand est-ce qu'on construit le chantier, quand il démarre, et surtout combien ça coûte. Et c'est pas fini. Parce que le combien ça coûte, alors là, chez EDF, ils sont extrêmement prudents. Le PDG Luc Rémont le dit en off, il dit, moi, je vais pas vous dire qu'aujourd'hui, c'est 10 milliards, et pour se rendre compte qu'on sera à 15. Je préfère dire qu'on sera à 15, essayer de réduire les coûts, et notamment en faisant des EPR en série, pour diminuer le coût le plus possible. Et ensuite, pardon, je suis un peu long, mais une fois qu'on aura ce prix, eh ben, il faut le financement. Et là, le gouvernement, alors lequel, voilà, c'est un peu le problème, c'est que plus le contexte politique dérape,
plus les banquiers,
moins c'est bon aussi pour le projet des EPR. Il faut le financer.
Juste un petit point très rapidement, c'est de Luc Rémont l'a dit, il faut simplement essayer de raccourcir le délai de fabrication, parce que l'enjeu qui est derrière quand même, c'est de recréer une filière nucléaire française. Et donc on a besoin que ça coûte pas trop cher, bon, ça on va voir. Et puis surtout on a besoin que ça se construise plus rapidement. Et puis quand même un petit coup de chapeau même à Luc Rémont, parce qu'on a l'impression que EDF est rentré et remis un tout petit peu rentre en ordre de bataille quoi.
Défi, comme vous dites, recréer une industrie du nucléaire. On nous explique qu'il faut former 100 000 personnes grosso modo d'ici les 10 prochaines années pour relever les défis.
La question
des compétences, enfin, voilà,
ça pour le coup ça a commencé en fait pour moi maintenant c'est moins un sujet de les compétences sont en train de se reformer, ça a commencé il y a 2 ans et que ça se fait pas en 2 ans, donc ça va prendre encore quelques années, mais
Et puisqu'on s'est toujours construit en série, comme dans les années 70-80.
Ces machines-là, on ne sait plus faire de grands projets en France, on va réapprendre. Mais ça va prendre quand même du temps. Et effectivement, le fait de construire les 2 premiers réacteurs à Penly, mais de savoir que vous en aurez 2 autres derrière, et encore 2 autres derrière, ça permet de créer des emplois, aux sous-traitants eux-mêmes de créer des emplois, de l'avoir de la visibilité. Donc c'est un tout, évidemment, c'est un projet industriel, titanesque.
Je pose la question parce qu'il y a une industrie réinventée qu'on est qui plus est encore sur un nouveau prototype là pour les prochaines années.
Encore une version améliorée de Flamanville.
Manu, il y a du boulot donc pour conclure là-dessus.
Oui, sachant que c'est vraiment le principal enjeu. En fait, moi, je me rappelle, j'avais fait, quand j'étais à l'expansion, il y a longtemps, j'avais fait une interview de Marcel Boiteux et il disait, mais en fait, technologiquement, c'est pas très compliqué de construire des réacteurs nucléaires. Il dit, le plus difficile, c'est de réussir à faire travailler ensemble des corps de métier qui sont extrêmement différents. Et c'est là tout l'enjeu de la filière.
Un orchestre.
En fait, c'est ça qui est très compliqué. Et c'est ça qu'il faut retrouver. On voit bien que le principal potentiel d'amélioration dans le process de fabrication, il va être dans la façon dont on va réussir à rapprocher les entreprises, etc. Où on va réussir à mettre les effectifs. Là, il y avait quand même des aberrations. Enfin, ça a été le grand n'importe quoi.
Flamanville, c'était le grand n'importe quoi.
Avec on peut gagner beaucoup de temps si on tire les leçons de ce fiasco.
Très vite. Non, et encore une fois, j'insiste sur, il va falloir que l'État boucle le financement de ces EPR. On parle de quasiment 70 milliards d'euros. Oui, l'épargne des Français le livrera, et aussi le consommateur sur la facture.
Une minute pour dire un mot de ce moment historique aussi que viennent de vivre les Galeries Lafayette, puisqu'on a appris que la présidente du holding, la famille Mottier, qui s'appelle Ginette Moulin, venait de passer la main à son gendre Philippe Houzet, qui est le patron du directoire des Galeries Lafayette, ainsi qu'à plusieurs petits-enfants. Madame Moulin, vous le voyez si vous le regardez à la télévision, cède la main, elle a 97 ans. Elle est la petite-fille du cofondateur des Galeries Lafayette, qui a fondé le premier magasin en 1894.
Si je peux vous dire, moi qui l'ai rencontré plusieurs fois, même si c'est quelqu'un de très discret. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une personnalité très forte. C'était plutôt une petite femme qui était là. Et je peux vous dire qu'elle faisait vraiment tourner tout autour d'elle. À la baguette, ses gendres, Philippe Houzet ou d'autres. Sa fille, Patricia Moulin. C'est vraiment quelqu'un qui avait une très forte personnalité. Évidemment, un peu dans le culte de son père et de son grand-père. Mais là, on est vraiment dans une transmission familiale.
Ah, c'est extraordinaire.
On en a quelques-unes, mais assez peu en France, parce que c'est le gendre, le fils, le fils aîné, le deuxième.
Elle a connu 5 générations au total de dirigeants des Galeries Lafayette. C'est beau, Emmanuel.
Pour partir à la retraite, c'est pas 17 ans. C'est Emmanuel Macron qui va la montrer en exemple.
Absolument. Voilà, Ginette Moulin qui passe donc la main à 97 ans aux Galeries Lafayette. 18h54, vue sur le web, comme tous les soirs. On met en avant un article du web de bfmbusiness.com. Il y en a une foultitude. C'est Pascal Samama qui est avec avec nous. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Ajustez votre siège, voilà, qui nous fait quelques coups durs. On va parler de l'Inde.
On va parler de l'Inde.
Qui pourrait finaliser d'ici la fin de l'année un contrat pour des rafales. Des rafales, oui, mais des rafales marines, Pascal.
Exactement. Ouais. C'est quoi la différence entre des rafales normaux, on va dire classiques, et des rafales marines? Les rafales marines sont ceux utilisés par l'aéronaval et qui sont capables de se poser sur des porte-avions, qui sont modifiés pour pouvoir s'équiper, ouais, pour pouvoir être propulsés et freinés par les filins. Donc, ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a eu le contrat, l'annonce du contrat avec la Serbie, 12 avions qui ont été vendus. C'était attendu, mais beaucoup pensaient que ça arriverait pas à leur terme. Et Éric Trappier, qui a pas l'habitude de faire des confidences, s'est un peu lâché auprès de journalistes en disant, ce contrat sera peut-être pas le dernier de l'année. Il y a peut-être un autre contrat en cours, et cet autre contrat en cours, ça ne peut être vraisemblablement que les rafales marines. Le contrat avec l'Inde, c'est un contrat d'environ 4 milliards d'euros pour 26 appareils. Ouais. Alors, faut se rappeler quand même que les négociations pour ce contrat ont duré 5 ans. Que le Rafale était en compétition avec le F-18 Super Hornet de Boeing.
Oui.
On se rappelle que cet avion, c'est celui de Top Gun, du dernier Top Gun. Donc, c'est vraiment une légende de l'aviation américaine.
Sauf
qu'apparemment,
il ne passait pas dans les ascenseurs du porte-avions. Donc, ça posait un petit souci. Ouais, c'est ça.
Manquait, mais vraiment, nous, c'est ce qu'on nous a expliqué. Il manquait, je crois, un centimètre, mais deux fois rien, vraiment deux fois rien. Mais bref, il passait pas dans les ascenseurs des porte-avions indiens. Et donc, il y a un an, on se rappelle, Narendra Modi est l'invité d'honneur de la France.
Du 14 juillet.
Et il annonce la sélection du Rafale au détriment de l'avion américain. Et c'était pas la fin d'un processus, mais la fin d'un épisode de cette affaire, parce que après ça, les négociations peuvent démarrer. Il a juste dit, ce sera le Rafale. Les négociations sur les prix, les négociations sur l'armement, parce que bien sûr, on vend un avion avec de l'armement, et puis un avion avec des technologies, ce sera quelle génération d'appareils? Bref, ça a démarré, ça a mis un an, un processus qui est un peu normal avec l'Inde. L'Inde, les contrats avec l'Inde sont longs. On leur a déjà vendu 36 rafales, terrestres, aériens et non pas marines. Ouais. Et donc, les négociations ont eu lieu, et vraisemblablement, ça va être la fin de ce processus. Et d'ici la fin de l'année, le contrat pourrait être signé.
Il y a un vrai moment Rafale qui dure, dit Éric Trappier à répétition ces temps-ci, apparemment.
Il faut dire qu'il a quand même réussi à récolter quelques commandes au prix du Rafale. Ça fait quand même des petits milliards.
Plus de 500.
C'est un petit centimètre qui rapporte beaucoup.
On a oublié toutes ces années de disette autour du Rafale. Ça nous paraît vraiment tellement loin, tout ça.
Est-ce que c'est pas normal? L'appareil, personne ne le connaissait. Il a dû faire ses preuves. La France l'a testé.
Il y a beaucoup de choses qu'on change. Enfin, il y a eu des conjonctions extrêmement favorables. Qu'au début, au moment où il arrive, c'est un avion qui est quand même extrêmement cher.
Oui.
C'est un avion qui est compliqué à entretenir, à utiliser. Et le contexte géopolitique n'est pas très tendu. Et en l'espace de quelques années, c'est un avion qu'on a effectivement... D'abord, il y a eu des conflits qui ont permis de faire de la démonstration de l'efficacité de l'appareil. Je pense au conflit en Yougoslavie,
tout à fait.
Notamment. Enfin, en ex-Yougoslavie. Et là, il y a eu une prise de conscience que c'était un super appareil. Il fallait qu'il arrive à maturité aussi. C'est aussi une question d'évolution de la concurrence. Est-ce que les appareils qui étaient ultra performants, on pense au F-16 par exemple américain, au moment où le Rafale est apparu, c'est des appareils qui avaient commencé à vieillir. Et puis donc il était à ce moment-là. Et puis il y a eu le contexte géopolitique, le rôle aussi pour la France, pour ces pays-là, l'intérêt de ne pas forcément
de la défense,
de trouver une alternative à une offre américaine ou à une offre russe, voire chinoise. Donc c'est une conjonction qui fait qu'il y a cette période. On peut pas, c'est même plus un moment, c'est une période.
C'est une longue
période Rafale.
Voilà pour cette période, cet âge d'or du Rafale. Merci beaucoup Pascal, on lit cet article et bien d'autres évidemment comme tous les jours sur le site bfmbusiness.com. Pascal Samuel.
Et la newsletter. BFM Défense.
À laquelle on peut savoir.
Magnifique.
BFM Défense pour rester connecté.
La meilleure du marché.
Magnifique.
Non, c'est vrai, objectivement, c'est remarquable.
Merci Pascal, merci Emmanuel. À demain, Edwige, à demain, 18h10.
Demain, ça sera le patron de la CAPEB, Jean-Christophe Repond, peut-être avec Michel Picon, le patron du 2P. Ils font leur rentrée dans l'an jeudi, mais. Ouais. Demain soir, ils seront là pour nous expliquer un peu comment ça se passe. Peut-être hurler contre cette absence du gouvernement. Oui, et en même temps, ils ne croulent pas sur le travail.
Non, mais aussi, ils attendent.
Olivier Ginon de GL Events, résultat semestriel, messieurs, à voir si les Jeux Olympiques lui laissent un peu de temps.
Voilà le programme. À demain, 18h10, 18h59. On est en retard. Dans un instant, le journal, puis nos experts qui reviennent jusqu'à 20h, 19h15, 20h, évidemment, comme tous les soirs. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, un peu plus de 19h, on est reparti, la deuxième heure de Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, on attend toujours bien sûr le nom du futur Premier ministre. Le nom de Xavier Bertrand est revenu dans la course aujourd'hui. On va en parler bien sûr dans un instant, puis on va en parler tout ça avec nos experts qui reviennent dans un quart d'heure. Avec eux, on parlera bien sûr de ces déficits qui sont partis pour déraper plus que prévu. Puis on parlera de l'EPR, parce que figurez-vous qu'au milieu de ce marasme ambiant, l'EPR de Flamanville a officiellement démarré il y a de ça un petit peu plus de 3 heures dans la Manche. Voilà le programme non exhaustif. Nos experts, qui sont-ils ce soir? Michel Sapin, l'ancien ministre de l'économie et des finances, sera avec nous. Béatrice Mathieu pour l'Express. Et Erwan Lenoir pour le cabinet Altermind. Bonne soirée, on est ensemble jusqu'à 20h.
Good evening business, le journal.
Donc cette nouvelle alerte sur nos déficits, Bercy l'a dit aujourd'hui, on craint qu'à la fin de cette année, le niveau de nos déficits ne s'élève pas à 5,1% du PIB comme prévu, mais à 5,6%. Écoutez Éric Coquerel, le patron LFI de la commission des finances à l'Assemblée, qui le disait ce matin sur BFM Business, faut de nouvelles recettes, mais ça ne doit pas passer par de l'austérité, écoutez.
La question, c'est de savoir comment on va chercher des recettes. Et pour cela, il y a deux manières de faire. Un, il y a d'aller taxer tous ceux qui ont profité des largesses de M. Macron pendant 5 ans, c'est-à-dire les revenus du capital les plus riches. La deuxième chose, vous l'avez dit, c'est pas de travailler plus, c'est de faire en sorte que les revenus du travail soient mieux payés pour qu'à partir de là, il y ait plus de cotisations qui rentrent, plus de fiscalité. Donc c'est, l'idée, c'est qu'il y ait on avantage les revenus du travail, des salariés, des artisans. Troisième manière de bouger les choses, c'est au contraire de ne pas baisser les dépenses publiques, mais d'investir là où on a besoin, et notamment un sujet qu'on a besoin qui est vital, qui est la transition écologique, où on sait qu'on a besoin de dizaines de milliards d'euros supplémentaires. Or, si vous investissez, vous faites marcher l'activité économique. Voilà. Si vous isolez plus de bâtiments, vous faites marcher le BTP.
Voilà donc Éric Coquerel ce matin sur BFM Business. Les déficits dérapent et depuis quelques jours, on sent que le gouvernement essaie de faire porter le chapeau en partie sur les collectivités locales. Les maires ont très bien compris le message et forcément, ils n'apprécient pas du tout. Astrée Olivier.
Bercy a les collectivités dans le viseur. 16 milliards d'euros de dérapage prévus pour cette année, un calcul incompris par les représentants locaux, comme Jean-François Nébat, coprésident de la Fédération Ville-de-France.
C'est particulièrement incorrect de la part d'un gouvernement qui n'est plus légitime. Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai le sentiment d'être sur un terrain de football. On a été taclé par derrière méchamment et on se retourne. Et la personne, elle n'est plus sur le terrain. C'est malhonnête parce que Bercy connaît l'évolution de nos dépenses et de nos recettes depuis le début de l'année. Nos budgets sont, par définition et légalement, équilibrés.
Parmi les collectivités, ce sont les départements qui sont le plus touchés par la hausse des dépenses cette année. Une augmentation des achats et des charges de près de 10% du fait de l'inflation, explique Bercy. Mais selon Emmanuel Salaberry, coprésident de la commission des finances de l'AMF, les collectivités n'ont en réalité pas de marge de manœuvre.
On a demandé aux départements d'investir massivement, d'augmenter les personnels soignants, de s'occuper plus de la protection de l'enfance. Et malheureusement, les ressources des départements, elles sont beaucoup axées sur les points de TVA, sur les transferts. Et donc, comme l'activité a ralenti, eh bien, il y a moins de recettes. Et donc, c'est la raison pour laquelle la situation commence à être vraiment très, très difficile.
L'AMF rejette la faute sur l'État qui s'est privé de 56 milliards d'euros de recettes locales sur les 3 dernières années, notamment avec la suppression de la taxe d'habitation.
Les collectivités locales dans le viseur du gouvernement, ces questions de finances publiques, bien sûr, on en reparle avec nos experts dans quelques minutes sur BFM Business. Je vous le disais, pendant ce temps, Emmanuel Macron a donc repris ce qui semble être un nouveau cycle de consultations. Pour désigner un Premier ministre, Xavier Bertrand est donc revenu dans la course aujourd'hui, même si le Rassemblement national a clairement menacé de voter la censure à l'Assemblée en cas de gouvernement dirigé par ce dernier. Et alors tenez, puisqu'on parlait de finances publiques, on voulait vous dire un mot de ce rapport de la Cour des comptes qui s'est penché sur la gestion du patrimoine que détient la France à Rome, en Italie. Le rapport est sans appel. La gestion de ce patrimoine laisse à désirer. C'est flou, comme on dit. Nathan Cocampo.
Le patrimoine concerné est considérable. 5 églises, 13 immeubles au cœur de Rome, mais aussi plusieurs milliers d'objets et d'œuvres d'art. Exemple avec le cycle de Saint-Mathieu du Caravage à l'église Saint-Louis des Français. Plus de 200 millions d'euros, rien que pour la valeur des bâtiments. Pour le reste, c'est le flou total. Aucune estimation des peintures, aucune inscription au bilan comptable. La Cour des comptes épingle notamment la gestion opaque du parc locatif. 148 appartements, 31 magasins, dont les loyers, au moins deux fois inférieurs à ceux du marché, reposent sur des petits arrangements dans l'ombre, parfois sans beau, payé en espèces. Résultat, des millions d'euros de manque à gagner chaque année pour les pieux. Même chose pour les travaux de rénovation ces dernières années. Pas d'appel d'offres, pas de surveillance et des risques de surfacturation. Enfin, les mesures anti-incendie ne sont pas en règle, avec un risque avéré pour la sécurité des œuvres, mais aussi des visiteurs. Informé de ces dérives depuis plusieurs années, le ministère des Affaires étrangères est resté passif, alors qu'il a toute autorité pour conduire à une remise en ordre de la gestion des pieux, dénonce la Cour des comptes.
Nathan Cocampo, dans l'actualité des entreprises. C'est un petit événement. Le procès au pénal de l'ancien patron de Volkswagen a débuté aujourd'hui en Allemagne après plusieurs années de retard. Procès consécutif, bien sûr, au scandale du Dieselgate. Martin Winterkorn, c'est lui, il est âgé de 77 ans. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison. Et puis, 19h08, le Royaume-Uni qui met beaucoup d'argent sur la table là pour accélérer sur les renouvelables. Le nouveau gouvernement travailliste vient de valider, après appel d'offres, la création de quelques 130 projets solaires et éoliens. Il y a potentiellement de quoi alimenter en électricité 11 millions de foyers britanniques. Raphaël Couder.
Le gouvernement britannique parle du plus gros tour de financement jamais réalisé au Royaume-Uni dans ce domaine. Près de 10 gigawatts de projets vont bénéficier d'un prix de l'électricité garanti par l'État. Dans le détail, la moitié de cette capacité, 5 gigawatts, concerne d'immenses projets éoliens offshore. Le Danois Ørsted remporte par exemple des contrats pour l'exploitation de deux parcs annoncés comme les plus grands d'Europe au large du Yorkshire. L'énergie solaire est l'autre grande gagnante, plus de 3 gigawatts de nouvelles capacités ont été attribués dans le pays. Il faut dire que pour ce nouvel appel d'offres, le gouvernement de Keir Starmer a mis les moyens en augmentant de 50% le budget de subvention disponible par rapport à l'année dernière. En 2023, l'appel d'offres avait été jugé catastrophique. Les enchères n'avaient attiré aucun projet éolien en mer. Les industriels avaient été découragés par le prix de revente de l'électricité proposé par le gouvernement, fixé trop bas selon eux, compte tenu des investissements à réaliser.
Voilà le Royaume-Uni qui accélère, qui met le paquet sur les renouvelables. Raphaël Couder avec nous sur BFM Business. 19h10, les marchés. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
On a terminé dans le rouge ce soir à la Bourse de Paris.
Oui, un bon gros éternuement quand même sur les marchés, moins 0,93% et on redescend sous les 7600 points, 7575 points. Alors, ce n'est pas traduit par une inflation des volumes, on reste à 2,5 milliards d'euros d'actions négociées, c'est des volumes d'été, hein. Mais bon, quand même, on réagit à la très forte baisse du côté de Wall Street en revanche, mais également un certain nombre d'indicateurs économiques, notamment la faiblesse de la demande du côté des matières premières en Chine. On a vu des cours souvent pour le minerai de fer qui baisse de 30% sur un an. Regardez, ArcelorMittal signe la plus forte baisse du CAC 40 à moins 5,16, on est à 20,23€. ST Microelectronics dans les semi-conducteurs qui est entraîné à la baisse par Nvidia qui est en forte baisse à Wall Street aussi. Le titre perd 4,5% à 27,37€. Total Energy, ça aussi c'est un des chiffres du jour, moins 3,15 pour Total Energy à 60,51€, alors que le baril de Brent de Mer du Nord a fortement chuté. On était sous les 74$ tout à l'heure, on est remonté légèrement au-dessus. En gros, on est au plus bas depuis décembre 2023. Donc voilà pour les cours du pétrole. Sinon, à la hausse des valeurs défensives, Carrefour plus 1,16, 14,78€, Danone plus 0,92, 63,78€, et puis des rachats de positions de vente à découvert autour de Téléperformance qui perdait pas loin de 10% en une semaine. Là, le titre reprend 2,7% à 98,46€. Le CAC 40, donc moins 0,93%, 7575 points.
Merci Antoine. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Bien sûr, c'est la mi-séance sur le marché américain. Le Dow Jones qui perd un peu plus d'1%, 41 109 points. C'est très dur sur l'indice Nasdaq qui se replie en ce moment de 2,5%, 17 265. Tout ça à la mi-séance, bien sûr. 19h12. On vient dans un instant avec nos experts jusqu'à 20h. Qu'est-ce qu'on raconte ce soir? Matignon, un jour un prétendant. Les déficits qui vont déraper plus que prévu. L'EPR qui a donc démarré officiellement cet après-midi dans la Manche. C'est pas tous les jours qu'on a une bonne nouvelle de cet acabit. Tout ça plus bien autre chose, bien sûr, jusqu'à 20h. Restez avec nous, bien sûr. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, il est 19h15, ils sont là, comme tous les soirs, nos experts, pour décrypter l'actualité économique jusqu'à 20h en direct sur BFM Business. Michel Sapin est avec nous. Bonsoir, monsieur le ministre, ancien ministre de l'économie et des finances. Béatrice Mathieu, bonsoir Béatrice, bienvenue.
Bonsoir Guillaume.
Rédactrice en chef à L'Express, et puis Erwan Lenoir. Bonsoir Erwan.
Bonsoir.
Consultant en stratégie au cabinet Altermagne. Alors Matignon, un jour... un prétendant, hier Thierry Baudet, aujourd'hui c'est le nom de Xavier Bertrand qui est revenu dans la course. Xavier Bertrand, on va l'écouter, qui était du côté de la foire au vin, du côté de Chalon, qui a été attrapé au vol en direct par nos confrères de BFM TV à la mi-journée. Écoutez ce qu'il disait au micro de nos confrères, c'est assez parlant finalement.
Vous êtes serein donc ?
Comme un président de région, ouais, tout à fait, qui est au boulot.
Président de région ?
Sur le terrain.
Président de région, mais va peut-être falloir vous appeler monsieur le Premier ministre dans quelques heures ?
Président de région. Président de région, ça me va très bien.
En tout cas,
c'est une très belle région. Grand Est aussi.
Tous les feux sont en vert. Monsieur le président de la République a reçu ce matin les cadres des Républicains.
Vous voulez pas que je vous parle de la foire de Chalon, parce que là, je vais être intarissable. Et sur le reste,
ça fait plus. Ça fait.
Voilà, donc on peut parler de la foire au vin Chalon si on veut, comme le disait Xavier Bertrand. Et Erwan, un petit mot de politicienne, pardon. Qu'est-ce qui fait qu'en 24 heures, on est passé de Thierry Baudet favori du côté de l'Élysée au profil de Xavier Bertrand qui est revenu dans la course? Comment vous expliquez ça finalement, vous?
Je serais bien prétentieux d'avoir l'explication, je ne suis pas certain que.
On lit que du côté, personne... ça arrivait dans les brancards du côté des vieux grognards et des poids lourds de la majorité autour d'Emmanuel Macron sur le nom de Thierry Baudet, que ça n'a pas accroché, quoi.
J'ai lu ou entendu que il y avait la fois des gens qui étaient favorables au sein de la majorité, et après qu'il y a des positions de Thierry Baudet sur les lois, sur la loi immigration par le passé, d'autres positions plus sociétales sur l'immigration, le cannabis, qui sont pas les positions que soutient aujourd'hui une partie du groupe LREM ou Renaissance, Horizon, et la majorité, si vous voulez, la constituer en ralliant la partie droite du Parlement. Donc probablement que ça a joué, probablement aussi que le président réfléchit à ce qu'il ait besoin, doit, sans en tout cas hésiter encore entre un profil technique et un profil politique. Et on voit bien que chacun est très prudent, Xavier Bertrand notamment. Xavier Bertrand, il a l'air de cocher un certain nombre de cases. Si on veut faire une majorité de centre-droit qui soit acceptable par une partie de l'opinion de gauche, et en même temps, le RN a immédiatement dit qu'ils allaient le censurer.
Oui.
Bon, le vrai sujet, à mon avis, c'est pas tant la personne que.
Alors, c'est le programme.
Qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce que ce Premier ministre fera de son mandat ?
Michel Sapin, plus que le programme, plus que l'homme ou la femme, est-ce que vous attendez le programme providentiel, vous, dans cette séquence, finalement ? Les investisseurs du monde entier, on va en parler dans un instant, en parlant de déficit, nous regardent aujourd'hui.
Ce qui serait providentiel pour les investisseurs, c'est qu'il se passe quelque chose, pour dire les choses. L'incertitude qui continue, qui est plus ou moins entretenue, ou qui échappe plus ou moins à nos dirigeants, c'est ce qu'il y a de pire pour tout décideur économique et tout investisseur. Donc, la première chose qu'il demande, c'est qu'on y voit un petit peu plus clair. Mais ensuite, la réalité, c'est qu'on a des noms qui sont donnés en pâture, ou des journalistes qui, il faut bien parler de quelque chose, parlent d'un certain nombre de noms, dont on ne sait pas du tout s'ils sont véritablement dedans. Mais la question fondamentale, c'est pourquoi faire ? Et je ne dis pas ça uniquement parce que je m'intéresse à ce qui pourrait être fait, et parce que des investisseurs peuvent s'intéresser à telle ou telle partie du programme, mais parce que l'équilibre global se fera sur... Qu'est-ce que je peux faire ? Pour le dire autrement, qu'est-ce que je peux changer ? La très grande majorité de cette Assemblée a été élue, et la très grande majorité des électeurs ont élu des députés pour que ça change, dans un sens ou dans l'autre, mais pour que ça change. Si c'est un Premier ministre pour que rien ne change, ça ne marchera pas. Donc c'est un Premier ministre pour que ça change sur quelque chose. Que ce soit ça change sur la droite, ou que ça change sur la gauche. Voilà, c'est le seul vrai sujet aujourd'hui dont j'espère... que les responsables discutent, et pas simplement sur des noms.
Béatrice Mathieu.
Alors, c'est vrai, pour que ça change, alors, ça change la politique à venir ou le passé. C'est ça, en fait, aussi. On voit bien que ce soit Thierry Baudet ou Cazeneuve avaient une volonté de remettre sur la table la question de la précédente réforme des retraites.
Ouais.
Et là, on voit bien qu'il y a eu une ligne dont Macron considère que c'est une ligne rouge. Comme ça peut être le cas d'ailleurs sur la loi immigration. Voilà. Alors, c'est qu'est-ce qui change? Est-ce qu'on remet, est-ce qu'on revient sur certaines réformes qui ont été, qui ont mis le pays
à feu et à sang,
notamment les retraites, ou c'est travailler sur des compromis à venir, et sur quel type de compromis, sachant qu'il n'y a plus sur le front de l'économie, il n'y a plus de réformes majeures à attendre d'ici la fin de ce quinquennat. Donc c'est compliqué à partir du moment où le président de la République dit « moi je ne veux pas qu'on change ce que j'ai fait ».
Donc, ah oui, sauf que les Français ont voté.
Sauf que les Français ont voté pour quoi exactement, Michel?
Ils ont voté pour ça change. Voilà. Oui. Après, pour ça change quoi? S'il y a quelque chose de certain, c'est qu'ils ont voté pour que ça change sur la question des retraites.
Quels que soient
les uns ou les autres, c'est extrêmement majoritaire pour que ça change, et plutôt dans le même sens. Moi, je suis tout à fait opposé au slogan abrogation, parce que ça veut rien dire. C'est-à-dire, quand on abroge, on enlève aussi des mesures qui étaient positives. Mais il y a des choses qui sont discutables, qui doivent être discutées. Oui. Si Macron dit non, rien n'est discutable, ben, il ne se passera rien du côté du centre-gauche.
Erwan, sur les retraites, rien n'est gérable, finalement, rien n'est négociable, c'est ça qu'il faut comprendre.
De la part du président?
Oui.
Visiblement, c'est une réforme importante.
Il y a une semaine, on l'entendit dire que peut-être il pourrait y avoir des ouvertures sur ce sujet des retraites.
Oui, mais dans le sens, je pense, comme le disait Michel Zappin à l'instant, il peut y avoir des réformes qui viennent compléter, modifier à la marge, mais je ne pense pas que le président souhaite s'engager ou soutenir une politique dont le but serait de revenir structurellement sur la réforme des retraites. Après, juste revenir sur ce qu'ont dit les électeurs, un point qui me semble aussi assez évident, c'est que les électeurs n'ont pas envoyé une majorité très claire au Parlement. Donc, ils imposent au moins, en théorie, aux différents groupes parlementaires de travailler ensemble. Certes, le président a ses lignes rouges, mais enfin, visiblement, les groupes parlementaires n'ont pas non plus complètement intégré le fait qu'il va bien falloir, d'une manière ou d'une autre, travailler ensemble. Ce qui me semble intéressant, c'est de voir l'incertitude et le blocage dans lequel on est en France, et en même temps, ce qui se passe à Bruxelles. Alors, certes, ce n'est pas le même système politique, etc., mais là aussi, on est en train d'attendre la formation de la Commission, il y a moins d'incertitudes, il y a une culture du compromis sur des réformes qui peuvent être aussi très ambitieuses, où les différents groupes arrivent à travailler ensemble. Et à mon avis, la principale différence vient du fait qu'à Bruxelles, il n'y a pas d'élection présidentielle.
Il n'y a pas d'élection dans le pipe d'ici 3 ans. Oui, Béatrice, vous voulez dire un mot?
Je ne suis pas complètement convaincue qu'il ne se passera rien sur les retraites, parce que c'est quand même, ça a été un marqueur en fait, de l'année passée, et de la contestation et un peu de la haine Macron, ça quand même été les retraites. Et on voit bien qu'il y aurait... Il y a une petite musique, en fait, qui commence à se faire entendre. Qu'on pourrait faire une loi qui n'abrogerait pas les 64 ans, mais qui ne reviendrait pas sur les 64 ans, mais qui pourrait étendre, par exemple, le nombre de gens qui ne sont pas concernés par ces 64 ans, et notamment pour la pénibilité, prendre plus de personnes. Le corps avait évalué que 40% en fait, des actifs aujourd'hui ne seraient pas concernés par le recul à 64 ans. On peut très bien
toucher à la réforme Touraine au nombre de trimestres, voilà. Là, ça ne fait pas descendre les gens dans la rue massivement.
Il y a le symbole de l'âge, de l'âge légal. Donc, il pourrait y avoir ça. Et dans un deuxième temps, mettre en place une sorte de commission, c'est ce que Ferracci voulait. D'ailleurs, Marc Ferracci disait qu'il faudrait peut-être un jour reparler de la réforme universelle. Et ça peut remettre, pas pour le faire évidemment avant 2027, c'est impossible, mais réfléchir, recommencer à travailler sur ça, ce qui permettrait de ramener peut-être la CFDT autour de la table pour demain, en fait, imaginer quelque chose pour post-2027.
Bien, donc toujours pas de gouvernement, et au milieu de tout ça, des déficits qui dérapent. Bercy a donc publié ses documents aujourd'hui qui laissent craindre qu'à la fin de cette année, vous savez, le niveau des déficits publics ne soit pas à 5,1 mais à 5,6% du PIB. Écoutez Éric Coquerel, président LFI de la commission des finances à l'Assemblée ce matin sur BFM Business, il n'y a pas à falloir trouver de nouvelles recettes, mais il ne faut pas que ça passe par de l'austérité. Écoutez ce qu'il disait très clairement.
La question, c'est de savoir comment on va chercher des recettes. Et pour cela, il y a deux manières de faire. Un, il y a d'aller taxer tous ceux qui ont profité des largesses de M. Macron pendant 5 ans, c'est-à-dire les revenus du capital les plus riches. La deuxième chose, vous l'avez dit, c'est pas de travailler plus, c'est de faire en sorte que les revenus du travail soient mieux payés pour qu'à partir de là, il y ait plus de cotisations qui rentrent, plus de fiscalité. Donc c'est, l'idée, c'est qu'il y ait on avantage les revenus du travail, des salariés, des artisans. Troisième manière de bouger les choses, c'est au contraire de ne pas baisser les dépenses publiques, mais d'investir là où on a besoin, et notamment un sujet qu'on a besoin, qui est vital, qui est la transition écologique, où on sait qu'on a besoin de dizaines de milliards d'euros supplémentaires. Or, si vous investissez, vous faites marcher l'activité économique. Voilà. Si vous isolez plus de bâtiments, vous faites marcher le BTP.
Voilà, Éric Coquerel, ce matin sur BFM Business. C'est dans ce contexte que va débuter la discussion au Parlement au 1er octobre sur le budget. Est-ce que vous auriez envie d'être ministre de l'économie et des finances pour traverser ces trois mois de discussion budgétaire au Parlement, Michel Sapin?
Si c'est pour relever un défi difficile dans le sens de l'intérêt général, oui, mais si c'est pour ne rien pouvoir bouger nulle part, de n'avoir aucune capacité de mouvement, que ce soit sur les dépenses ou que ce soit sur les recettes, non, c'est pas la
peine. Mais c'est au Parlement, dans ce Parlement éruptif, que tout va se jouer à partir d'octobre. C'est ce Parlement qui va être défait, redéfait, reconstruit, sous le regard, encore une fois, des investisseurs internationaux. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure.
Ça ne me gêne pas du tout que le Parlement joue un rôle. Mais comme vous le savez, s'agissant du débat parlementaire sur le budget, son rôle est malgré tout contraint, ne serait-ce que parce que quand vous décidez d'augmenter une dépense, vous devez normalement mettre en face une recette ou de proposer une diminution de dépense.
Ça, c'est la théorie. Limite,
hein. C'est pas la théorie seulement. Je vous assure que l'article...
L'article 40 existe.
Il est utilisé automatiquement dans de très nombreuses fois. Non, mais que le Parlement soit en plus de responsabilités qu'il ne l'était jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, moi j'ai connu, on arrivait avec un budget, ben on écoutait des gens qui disaient il n'y a pas assez d'argent pour le sport, il n'y a pas assez d'argent pour l'agriculture, il n'y a pas assez d'argent pour ceci. Chacun faisait son petit baratin, puis à la fin, on votait le budget tel qu'il avait été présenté. Donc là, ça va être vraiment un vrai exercice de responsabilité, comme dans beaucoup d'autres démocraties. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui se passe en Allemagne sur la question du budget. Donc ça peut être très intéressant. Simplement, je termine sur une chose. Tous les jours, du côté de Bercy, on va dire du côté du ministre des Finances, on en apprend de nouvelles mauvaises en termes de dégradation du déficit. Je disais un peu en souriant, d'habitude, j'ai connu ça, c'est plutôt le successeur qui dit « le successeur a été très mauvais ». Eh bien là, vous avez le gars en place qui prépare le terrain en disant « tu ne pourras pas m'en dire beaucoup plus que ce que je suis en train de dire sur le fait que je suis très, très mauvais ». Et ce n'est pas tant le déficit d'ailleurs de cette année qui est très inquiétant, c'est celui qui est prévu pour l'année prochaine.
On est potentiellement à 6,2% de déficit considérable rapporté au PIB.
Et ben pour arriver à faire bouger ça, c'est pas simplement par les recettes, je vous le dis tout de suite. Hein.
Ouais.
Je suis pour des recettes supplémentaires.
C'est par la baisse des dépenses.
Justice fiscale.
Oui, c'est par la baisse des dépenses.
Par la maîtrise des dépenses. Oui. On peut faire ça dans tous les sens. On voit, la maîtrise des dépenses, elle s'imposera. Il faut qu'elle soit juste.
Oui.
Il faut qu'elle soit efficace.
Oui.
Elle s'impose.
Mais c'est ça qu'il va falloir essayer d'imposer autant que faire se peut au Parlement. Est-ce que vous craignez, Erwan, même question, dans ce contexte budgétaire absolument cataclysmique, la discussion budgétaire qui va commencer au Parlement en octobre, qui va être haute en couleur finalement? Est-ce qu'on va pouvoir trouver
un... Je ne sais pas si je la crains, parce qu'effectivement, je pense que ça peut être intéressant de suivre, de voir la capacité d'un gouvernement.
Oui, mais désastreux en termes d'image, j'entends.
En termes d'image, après, oui, effectivement, je crains effectivement que ce soit la foire d'empoigne et les slogans, et d'autant plus facilement qu'un certain nombre d'acteurs parlementaires n'ont pas l'air d'être investis d'un grand sens de la responsabilité de faire avancer le compromis. Bon, ensuite, le sujet, c'est que on n'est pas seul, qu'il y a une procédure de déficit excessif actuellement engagée à Bruxelles, que vous le disiez, des investisseurs internationaux et autres qui regardent. La France me semble être dans une situation où ces difficultés politiques vont commencer à lui poser de sérieuses difficultés économiques. Et comme le disait Michel Sapin au début de la conversation, l'incertitude est pas très bonne pour le business. Et quand en plus cette incertitude commence à s'ajouter des facteurs de risque toujours plus grands, on va entrer dans une période qui est probablement pas très sereine.
Béatrice.
Ah ben oui, période pas très, très sereine, avec un calendrier qui va être très, très compliqué. Là, on devrait avoir un programme pluriannuel des finances publiques qui devrait être envoyé à Bruxelles le 20 septembre.
Oui.
Qu'est-ce qui va être envoyé à Bruxelles le 20 septembre?
Qui va envoyer quoi?
Qui va envoyer quoi? Moi, sincèrement, je ne sais pas. Mais en même temps, ce qui va être envoyé à Bruxelles va conditionner quand même drôlement l'attitude de la Commission et le chemin qu'on va imposer à la France. Et là-dessus, l'évolution des dépenses, puisqu'on on sait que maintenant, dans le nouveau cadre budgétaire, c'est un chemin d'évolution des dépenses. Donc, cette maîtrise des dépenses, qu'on le veuille ou non, elle va malgré tout être imposée par Bruxelles.
Et peut-être par les marchés.
Et par les marchés.
Et peut-être par les marchés.
Donc, même si on se dit, Bruxelles, on n'a jamais respecté nos engagements, donc là, quand même, on a signé, il n'y a même pas un an, un nouveau pacte, et la France a poussé pour ça.
Vous voyez le
Alors,
moment
on peut dire, il n'est pas très bien, il est mal ficelé, on aurait pu le faire différemment, exclure la défense des dépendants. Bref, dès le départ, on ne le respecte pas, et on est un des seuls et les plus mauvais à ne pas le respecter.
Vous voyez le moment où les marchés vont commencer à s'emballer véritablement, Michel Sapin, là, depuis le temps qu'on référence Remember Liz Truss en Grande-Bretagne il y a deux ans. Voilà.
Je vais répondre à la question, mais en partant d'un tout petit haut. Je suis toujours très réticent devant l'argument Bruxelles. Parce que être responsable, parce qu'il y a un méchant qui risque de vous taper dessus par derrière, c'est jamais, je trouve, très motivant. Je pense que c'est l'intérêt de la France
de
maîtriser son budget, parce que par ailleurs, on est cohérents les uns avec les autres, qu'on a la même monnaie et que les autres ne vont pas payer pour nous pour qu'on puisse avoir la stabilité. Non, le vrai signal, ce n'est pas la Commission, c'est qu'est-ce qui se passe sur les marchés.
Voilà.
Aujourd'hui, on devrait pouvoir rentrer. J'avais envie de garder ça pour mon coup de cœur, pardon, mais bon. On devrait pouvoir rentrer dans une période de baisse des taux d'intérêt. Vous savez qu'un des grands défis de l'État aujourd'hui, c'est que tous les ans, le coût de la dette augmente.
Oui.
Moi, j'ai connu une période bénie où tous les ans, le coût de la dette baissait. Mmh. Et moi, j'avais ma petite cagnotte à la fin de l'année comme ministre des Finances. Il me disait, bon, on a 4 milliards de dépenses un peu supplémentaires. Hop, c'est étonnant, j'ai fait une économie sur mes 4 milliards. Une fausse économie, mais enfin...
Les fruits de la croissance, on s'en souvient.
Là, ça a été l'inverse pendant des années et des années, à coût de 15 milliards par an de poids supplémentaire de la dette. Donc, c'est notre intérêt que de bénéficier aujourd'hui de ce qui semble s'amorcer avec la baisse de l'inflation, c'est-à-dire des baisses de taux d'intérêt. Eh bien, la première punition, ça va être, si on n'est pas sérieux, les uns ou les autres, quelle que soit l'orientation, c'est vous ne bénéficierez pas de cette manne dont tous les autres vont bénéficier.
Remember ce qui s'est passé il y a 24 mois déjà, Liz Truss en Grande-Bretagne, c'est resté dans les esprits, bien sûr. 19h31 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h35, on est de retour avec nos experts pendant une grosse vingtaine de minutes sans pub. Bien sûr, Erwan Lenoir est toujours avec nous, Béatrice Mathieu est toujours avec nous, Michel Sapin est toujours avec nous. On parlait, vous savez, du dérapage des dépenses publiques, des déficits publics. Et vous avez peut-être entendu que depuis quelques jours, en gros, le gouvernement essaie de faire porter le chapeau en partie sur les collectivités locales, dérive des dépenses des collectivités locales. Écoutez ce que disait ce matin Jean-François Copé, le maire de Meaux, qui dit l'État n'a qu'à pas nous charger la barque toujours plus, finalement. Écoutez ce qu'il disait avec son franc-parler, Jean-François Copé.
Enfin, de manière générale, la vraie difficulté des collectivités locales, c'est qu'on n'arrête pas de leur en mettre sur la tête. C'est-à-dire que le nombre de dépenses obligatoires supplémentaires sont colossales.
Comme quoi ?
Par exemple, la gestion des inondations qui nous tombent dessus, si j'ose dire, et qui devient une dépense obligatoire en termes de prévention, des normes environnementales très importantes dans tous les domaines. Lorsque le ministre de la fonction publique annonce qu'il augmente de X points la rémunération des fonctionnaires d'État, tout le monde oublie que ça pèse immédiatement sur les collectivités.
Donc, en creux, c'est la responsabilité du gouvernement que vous dénoncez.
Évidemment, c'est la responsabilité du gouvernement. On tourne autour du pot et ça, c'est vraiment la com' classique.
Voilà, vous êtes d'accord avec Jean-François Copé, Michel Sapin, il a raison.
En grande partie, sur le fait que c'est de la com' classique de la part de Bercy.
Un petit ticket sur les fonctionnaires, quand même.
Et avec un slogan qu'on voit sous notre image, déficit, ce serait les collectivités territoriales. Comme vous le savez, les collectivités locales n'ont pas le droit de faire de déficit. Donc, c'est pas de là que vient le déficit. Après, il y a un problème finances publiques de manière générale. Et c'est vrai que les dépenses des collectivités territoriales ont augmenté, sans pour autant que ça cause un déficit. Elles ont augmenté, comme celle d'ailleurs de l'État, mais là avec un très gros déficit.
Non, mais là, Bercy leur fait porter le chapeau, on dit 16 milliards
Ça, c'est de la com' classique qui est mensongère. Ensuite, Dire que l'État transfère un certain nombre de choses, c'est vrai aussi, mais ça n'empêche, j'ai été maire pendant 20 ans, j'étais président de conseil régional, maîtriser son budget et maîtriser ses dépenses, ça fait partie des responsabilités des élus locaux, et donc il ne faut pas s'abstraire de cette responsabilité générale.
Béatrice, là-dessus.
Oui, alors, pour tout à fait, effectivement, l'argument facile, il faut voir quand même qu'aujourd'hui, beaucoup de collectivités locales, et notamment les départements, souffrent de la chute très forte des droits de mutation.
Mais bien sûr, les droits de mutation.
Et ça, les droits de mutation dans certains départements, c'est... Prenez toute la côte atlantique, c'est très, très rude. Et d'une dépense qui, elle, augmente très fortement, notamment, on pourrait donner l'aide sociale à l'enfance, la question des mineurs isolés, qui, là aussi, dans des
départements... Et puis le RSA dont on parlera dans un instant.
Et le RSA. Oui. Donc, il y a un effet de ciseau qui, pour beaucoup de départements, c'est très, très compliqué. Et la baisse des dépenses, là, ils vont devoir, puisque effectivement les collectivités locales n'ont pas le droit d'être en déficit, il va y avoir des dépenses qui vont être coupées et qui vont être des dépenses de fonctionnement ou d'investissement, ce qui est le pire en fait.
Ça s'arrange pas entre l'État et les collectivités locales, là, fondamentalement, Erwan. Hein,
Non, mais effectivement, il y a une part de jeu classique entre le pouvoir central et les collectivités. Je crois que structurellement, mais sous le contrôle de spécialistes, le sujet, c'est la façon dont fonctionne la décentralisation en matière de finances publiques en France, où les collectivités ont peu de maîtrise sur leurs ressources. Elles subissent des décisions, c'est vrai, de l'État, mais c'est parce qu'on a une relation très compliquée en France à la décentralisation, en réalité.
Sujet... ancestral.
Dont on parlera encore pendant quelques années. Mais il n'empêche que dans la période actuelle, avec un déficit considérable, la nécessité de maîtriser l'ensemble des dépenses publiques, je vous rappelle les chiffres, hein, 25% c'est l'État, 20% les collectivités territoriales,
et le reste,
55%
les
régimes sociaux.
Les régimes sociaux, c'est
tout ça
que
la dépense.
L'administration. Bien, bonne nouvelle, 19h39 sur BFM Business. Bah, le père de Flamanville, dont on a dit pique-pan pendant des années, figurez-vous qu'il a officiellement démarré là en milieu d'après-midi. EDF a communiqué tout à l'heure sur le sujet. Toute petite production d'électricité, on va monter en puissance, on va le raccorder au réseau prochainement et puis il sera à 100% d'ici quelques mois quand même. Mais quel sujet, quand on regarde les chiffres, ils sont affolants. 12 ans de retard, 10 milliards d'euros de surcoût.
C'est ça.
Bah oui, on essuyait les plâtres à l'époque. Béatrice,
enfin il est là, donc on va se réjouir. Oui, c'est un moment historique, ça faisait quand même depuis 1999 qu'on n'avait pas mis en route un réacteur nucléaire. Donc évidemment, c'est une bonne chose. Avec les bémols que vous avez cités, c'est-à-dire l'explosion du coût et les délais. Là maintenant, c'est comment on passe à l'étape 2, c'est-à-dire à construire les 6 prochains EPR 2. Donc ça veut dire que c'est des EPR qui sont un peu modifiés, différents par rapport à celui de Flamanville. Donc il y a des délais qui sont considérables. On va en reparler.
Non, mais il y a le sujet. Pardon, on vous laisse. On va vous apporter de l'eau, Béatrice, dans un instant. Il y a le souci toujours de recréer cette industrie. Parce que sur le papier, Emmanuel Macron disait c'était à Belfort, je crois. C'est ça, en début d'année 2022. On va recréer une industrie du nucléaire. Mais on sait qu'il manque des compétences. Mais on sait qu'il manque de la main-d'œuvre. Mais on sait qu'on ne sait plus construire en série des réacteurs nucléaires comme on le savait faire dans les années 70-80. Donc on démarre un peu de zéro, finalement. Ou presque.
Oui, vous me regardez comme si j'étais un expert du...
Non, je ne sais pas,
Je vais juste vous rappeler, vous raconter une histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2011-2012, on discute d'un programme avec les Verts.
Ouais.
Dans le programme avec les Verts, il y a la question du nucléaire. Et ça s'est terminé sur la question de l'EPR, où on a constaté notre désaccord. C'est-à-dire que les socialistes disaient, nous, on est pour que l'EPR ouvre en 2012.
François Hollande a acté la fermeture de Fessenheim. Hein.
Oui, mais non, mais Fessenheim, c'est une chose. Mais l'EPR, c'est autre chose.
Mais moi, je vous parle de Fessenheim, parce que...
L'EPR, c'est autre chose. Le désaccord était sur ce point-là.
Oui.
Et on a dit, nous, l'EPR. Donc, ça me paraît être une très bonne chose. Mais la question vraiment que je me pose, c'est pourquoi, de 2012 à 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avant? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on revient, c'est un peu la tarte à la crème des compétences, mais c'est vrai. En fait, on a presque construit trop vite un parc nucléaire qui a été considéré comme suffisant. Et quand il a fallu, 20 ans après, ou 25 ans après, ou 30 ans après, concevoir un deuxième parc nucléaire à un rythme relativement important, qui était nécessaire, eh bien, il n'y avait plus...
Et ben, c'est partir les compétences.
Et c'est quand même fou de voir qu'il y a eu trois EPR de cette nature qui ont été construits dans le monde. Le premier qui a été démarré, c'est nous. C'est le dernier à ouvrir. Le second,
la Finlande.
C'est la Finlande. Il vient d'ouvrir.
Et deux en Chine.
Et le chinois. Et les chinois, c'est le dernier démarré et c'est le premier ouvert. Et il fonctionne. C'est pas parce qu'il y a moins de sécurité. Il faut pas nous laisser croire ça. Au fond, on s'aperçoit que les Finlandais ou les Chinois, même si c'était nous qui étions, avaient une compétence supérieure à la nôtre pour construire les EPR en question. C'est vraiment quelque chose sur lequel on doit s'interroger. Et c'est pas une histoire de 1 an, 2 ans, 3 ans. Hein, franchement, c'est une histoire de 20 ans. Ou de 25 ans de manque de perspective et de prospective.
Erwan, on a toute une filière à reconstruire aujourd'hui, ça a déjà commencé, mais le chemin est encore très long pour tenir les objectifs qui ont été assignés par Emmanuel Macron finalement sur le sujet. Enfin, ça va être un long combat quoi, quand même.
Oui, c'est un long combat, mais comme tous les grands projets industriels. Donc, celui-ci particulièrement, parce que ça fait appel à une technologie très poussée, à des connaissances très poussées. On voit qu'aujourd'hui, on a quand même... Moi, ce que je trouve intéressant, au-delà de l'EPR, je ne suis pas non plus un spécialiste, la question, c'est comment l'opinion, je crois, a beaucoup évolué sur la question du nucléaire sur les dernières années, et comment cet enjeu qui consiste à aujourd'hui recréer une filière nucléaire ou, comme vous le disiez, la consolider, est probablement plus facile qu'il y a quelques années. Peut-être que c'est aussi ce qui est... au-delà de l'inaction politique qui a pu avoir lieu entre-temps, ou des hésitations, je pense que c'est ce qui, par rapport aux années 2010, a beaucoup changé. Aujourd'hui, je crois que le nucléaire est majoritairement accepté dans l'opinion publique. On n'a plus les débats autour du nucléaire avec l'intensité qu'il y avait il y a quelques années, et ça, c'est plutôt une bonne chose pour recréer la filière.
Y compris du point de vue écologique, si je puis dire.
Oui, tout à fait. Justement, j'allais dire, je pense que c'est d'ailleurs
ce qui a fait bouger les choses.
Béatrice.
Il y a la question des 6 prochains, et puis après...
Et des 8 en option.
Et des 8 en option.
Des 8 en option.
Le gros souci, c'est est-ce qu'on va faire les 8 en option? Parce que est-ce que ces EPR, qui sont quand même des grosses machines, etc., sont vraiment adaptés à la décentralisation du système énergétique qu'on est en train d'observer. Il est probable que non, et qu'à la place de ces gros EPR, on ait des réacteurs nucléaires plus petits, on voit bien qu'il y a toute une industrie de ces SMR en fait, qui est en train de se développer là, et que la vraie avenir du nucléaire est plus sur ces petits réacteurs plus modulables, plus petits, qui correspondent plus en fait aux besoins et au système, à l'architecture énergétique qu'à ces grandes cathédrales nucléaires.
Absolument, on peut appeler ça les cathédrales.
Pas sûr que ça soit décidé par un gouvernement qui va être nommé et qui ne saura pas pour combien de mois il en a.
Ne remets pas le couteau dans la plaie, voilà, chaque chose suffit sa peine. Un petit mot sur cet article du Figaro qui nous donnait des chiffres, vous savez, sur les premières expérimentations de la réforme du RSA, vous savez, l'obligation d'effectuer les fameuses 15 heures d'activité hebdomadaire en contrepartie du versement de l'allocation. Ça a été testé là, ces derniers mois, sur 40 000 personnes dans 47 départements. Et alors, les retours de France Travail sont plutôt bons. On nous dit, un, on connaît mieux les allocataires parce que désormais, ils ont l'obligation de s'inscrire à Pôle emploi, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Deux, désormais, entre l'ouverture des droits au RSA et le premier rendez-vous, c'est 15 jours. C'est plus 3 mois comme avant. Et 3, parmi eux, vous en avez la moitié qui accède à un poste au cours des 6 premiers mois. 21% au bout de 6 mois ont un emploi durable. Ça prouve que ce que nous a expliqué, c'est-à-dire que ces fameuses 15 heures hebdomadaires, c'était le bagne. En gros, vous envoyez casser du caillou en Sibérie, c'était ça. Ben non, c'est des petits pas, c'est l'élaboration d'un CV. C'est de l'accompagnement, véritablement. Ça marche, c'est pas la panacée pour aller au plein emploi, mais ça marche, Béatrice.
Et parce que le permis de conduire, il y a tout un accompagnement, et de toute façon, il y a une pléthore d'études qui ont été faites sur des cohortes de gens rentrés au RSA, qui montraient que sans accompagnement, de toute façon, ils tombaient dans cette trappe au RSA, ils n'en ressortaient jamais avec un emploi. Et on sait que ces gens-là ont besoin d'un accompagnement, et donc ça coûte aussi beaucoup plus d'argent public, d'accord ? Bien plus important qu'un demandeur d'emploi classique qui est là depuis 3 mois à France Travail. Mais si l'objectif est celui du plein emploi...
Non, c'est un outil parmi tant d'autres, bien sûr.
C'est un outil parmi tant d'autres, mais pour ramener en emploi ces personnes-là, on est obligé de passer par cet accompagnement bien plus personnalisé et encore une fois plus coûteux, mais qui à la fin, pour la collectivité... coûtera moins.
Attention, parce que ça a été testé sur 40 000 allocataires. Il y a 2 millions d'allocataires du RSA en France. Et ceux qui ont été testés ne sont pas forcément ceux qui sont les plus éloignés du marché de l'emploi. Voilà. Donc il va falloir y mettre des moyens. Et justement, on entend dire que le budget du ministère du Travail pourrait être raboté de quelques milliards l'an prochain. Donc voilà.
Sur ces sujets-là, autant que je sache.
Ce sera une question d'arbitrage.
Principalement sur les questions de.
Il faut du personnel pour les.
Il faut du personnel. France Travail dit va nous manquer des centaines et des centaines de personnes, des milliers de personnes.
Ce qui est intéressant, parce que. On peut caricaturer ces débats-là. Si on caricature,
on dit que
c'est... C'est souvent été caricaturé à l'extérieur. Ils foutent rien, il faut les obliger à travailler et au moins 15 heures d'activité. Ça n'est évidemment pas ce qui est en train d'être fait. Ce serait, on vous oblige à travailler, ce serait l'échec. C'est quoi ? C'est, on vous oblige à avoir un rendez-vous, à regarder les choses ensemble, quels sont vos défauts de formation. Et ça, c'est l'accompagnement. Et c'est totalement l'esprit du RSA au moment où il a été créé.
Oui.
C'est-à-dire que c'est pas simplement
c'est des moyens.
On vous donne de l'argent, parce qu'il faut bien subsister, mais c'est on vous accompagne.
Oui, sauf que vous avez aujourd'hui 20% des allocataires du RSA qui sont des gens qui n'ont pas bossé depuis 10 ans au moins.
Oui, bah, ils auront d'autant plus besoin d'être accompagnés si on veut essayer de les ramener vers l'emploi.
Erwan.
Nous n'avons rien à ajouter, à part répéter ce qui vient d'être dit. Effectivement, il y a une ambiguïté dans le débat une caricature entre ceux qui disaient ils foutent rien et donc on va les forcer à travailler. C'est pas ce qui se passe. On sait bien que ce sont des gens qui sont éloignés du travail, qui ont besoin d'être accompagnés. Après, comme vous le disiez, on est sur une partie de cette population. Et il y a encore beaucoup à faire pour ramener la France au plein emploi.
Oui, c'est un outil parmi tant d'autres, effectivement. Plein emploi.
C'est un outil positif.
Mais qui est essentiel, parce que ça joue aussi, ça va jouer sur même les dépenses d'assurance maladie. On sait aussi que c'est des gens qui sont plus souvent malades ou plus souvent en dépression, etc. Donc le fait de revenir dans l'emploi a des effets long terme aussi, évidemment psychologiques sur eux, mais aussi... matériel
dont... Et juste un mot de méthode, c'est cette question dite de l'expérimentation. Alors on peut évidemment dire on expérimente aux endroits qui sont les plus propices, avec les gens qui sont les plus proches de l'emploi, etc.
Ça ne
peut pas être complètement faux. Mais l'idée de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une loi et hop, ça s'applique du jour au lendemain à tout le monde, est une bonne idée. Est une bonne idée. Ça choque un peu l'uniformité ou l'uniformisation à la républicaine, mais c'est vraiment une très bonne idée qu'il faut développer dans beaucoup d'autres domaines.
On a 2 minutes avant vous avez du soir pour parler logement, parce qu'on voulait parler un petit peu de cette rentrée étudiante. On avait pris prétexte de ce que nous racontait notre collègue Marie-Cœur de Roy, qui nous disait c'est l'enfer plus que toutes les autres années. Cette année, pour les étudiants, qui nous donnait l'exemple d'un logement de 12 mètres carrés à Paris, 615 euros de loyer par mois. Vous avez eu 1016 candidatures en l'espace de 2 semaines. Voilà. On parle de quoi ? Parce qu'on va parler du Pinel aussi apparemment cette semaine, Béatrice, c'est ça ?
Alors, je crois que c'est le 5, donc c'est jeudi, que la Cour des comptes, en fait, devrait rendre public son rapport sur le Pinel. Connaissant un peu... on connaît la Cour des comptes, a priori, elle devrait dire que ça a coûté quand même très cher pour des résultats qui sont un peu contestables, ça a alimenté quand même un petit peu la hausse des prix, et puis on a la situation des finances publiques que Bruno Le Maire nous a donnée, et donc le Pinel, il va mourir de sa belle fin. Mais alors ce qu'on va voir en fait courant septembre, c'est-à-dire des grandes campagnes de publicité de tous les promoteurs qui vont essayer de faire beaucoup de Pinel au mois de septembre, parce que compte tenu des délais, il faut les signer fin septembre, début octobre pour finaliser avant le mois de décembre.
Ça va faire hurler un secteur de l'immobilier en pleine décrépitude, cette affaire, évidemment.
Moi, je vais reboucler avec les sujets politiques, c'est-à-dire que on a aujourd'hui en France l'exemple que vous donniez de ce logement étudiant qui reçoit, je sais pas combien, de 100
12 mètres carrés, 615 euros par mois, 1016 candidatures en 2 semaines.
Voilà.
C'était là tout récemment à Paris.
C'est un sujet qui, en France un peu et dans d'autres pays, est aujourd'hui l'un des principaux moteurs du populisme. Il y a les sujets de migration, il y a les sujets d'insécurité, etc., de difficultés financières. Et dans celle-ci, et notamment aux États-Unis, il y a le logement. Et les difficultés dans le marché du logement qu'on connaît aujourd'hui en France, sans vouloir me faire de vin, à mon avis, sont annonciatrices de difficultés politiques à venir encore plus grande dans le contexte qu'on
parlait tout à l'heure. Mais on les a déjà eues, c'est-à-dire que la crise des Gilets jaunes a quand même une racine logement.
Oui, mais je pense que ça va être...
On est sujet non traité, mis sous le tapis depuis des années. La crise du logement, elle n'est pas nouvelle en France, ça fait des années, et on sait que c'est
la base de bien des difficultés. Les autres, Pinel, de mémoire, elle devait être ministre du temps où j'étais au gouvernement, donc puis on vous trouverait d'autres noms correspondant à d'autres
points.
C'est toujours un peu la même méthode, sous la pression d'ailleurs du secteur du logement, alors qu'il y a peut-être d'autres types de mesures pour construire. Il faut construire sur un territoire, sur un terrain. Comment est-ce qu'on maîtrise ces terrains qui me paraissent peut-être plus important et plus pertinent pour résoudre alors une crise qui est effectivement avec des conséquences sociologiques et donc politiques absolument considérables.
Allez, 19h52, l'extra time comme tous les soirs, vos avis du soir, coup de gueule ou coup de cœur sur 30 secondes, c'est la règle impitoyable de cette séquence. Michel Sapin, est-ce que vous voulez commencer? Est-ce que vous avez une petite inspiration ce soir?
Ah oui, mais je me suis déjà vendu la mèche, donc coup de cœur parce que l'inflation vient de baisser, d'être en dessous des 2% ou à 2% ou presque à 2% en Europe et en France. Or, la question de l'inflation, c'est la question du pouvoir d'achat, de la vie chère. C'est un élément très fort aujourd'hui et au cours des dernières années du mécontentement. Et deuxièmement, vous en connaissez les effets sur la fixation des taux d'intérêt. On vient de parler du logement. Peut-être qu'une des causes principales de la crise du logement aujourd'hui, c'est les taux d'intérêt pour construire ou faire des travaux. Eh bien, là, il y a une bonne nouvelle. Profitons-en, y compris le gouvernement à venir.
Message pour les professionnels du secteur. Béatrice, 30 secondes, coup de gueule, coup de cœur ce soir.
J'ai eu un coup de gueule en lisant un rapport de la Cour des comptes européenne, qui est sorti avant-hier, sur les fonds du plan de relance européen.
Oui.
Vous vous rappelez le plan de relance européen, les 700 et quelques milliards, ça. Et la Cour des comptes européenne tire la sonnette d'alarme en disant y a à peine un tiers en fait, des sommes qui ont été débloquées. Et que ce plan en fait doit se terminer en 2026, on est à mi-parcours, et que la complexité en fait de la mise en œuvre du plan fait que il n'est pas sûr que toutes les sommes qui avaient été promises soient débloquées. Et c'est dommage quand même pour la transition
énergétique et pour le logement. Puis il va y avoir pour la première fois un poste de commissaire au logement à Bruxelles, ce qu'il n'y avait pas pour la présidence. C'est incroyable quand on y pense. Erwan, c'est à vous, 30 secondes pour terminer.
Ça serait plutôt un coup de cœur, en tout cas un vif intérêt, parce que la Cour de justice a rendu aujourd'hui une décision concernant une opération de concentration qui avait été interdite par la Commission européenne, concernant Illumina et Greg, je crois. Ouais. La Commission s'était saisie d'un pouvoir de façon assez particulière, qui était renvoyé par les autorités nationales pour contrôler une opération dont elle n'avait pas normalement le contrôle.
Ouais.
Et la Cour de justice vient lui dire « Ah non, ça vous pouvez absolument pas le faire ». Donc c'est annonciateur de beaucoup de débats, beaucoup de perspectives dans le secteur du droit de la concurrence.
Ça va faire causer en Europe, voilà.
Exactement.
Voilà, pour les prochains mois. Plus la constitution de la nouvelle Commission européenne, donc tout ça va occuper évidemment beaucoup d'acteurs au niveau européen. C'est terminé, merci beaucoup ce soir d'être venu. Michel Sapin, ancien ministre de l'économie et des finances, à très vite avec plaisir. Erwan Lenoran, consultant en stratégie pour Alter Mind. Et Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à L'Express. Merci beaucoup à tous les trois, à très vite pour nouvelles aventures. 19h55, je vous redonne les grands titres rapidement. Emmanuel Macron qui continue ses consultations pour nommer un Premier ministre. Vous savez que le nom de Xavier Bertrand est revenu dans la course aujourd'hui, même si le RN a clairement menacé de voter la censure de l'Assemblée en cas de gouvernement dirigé par ce dernier. Cette nouvelle alerte donc sur les déficits, Bercy a dit craindre aujourd'hui qu'à la fin de cette année, le niveau de nos déficits publics ne s'élève pas à 5,1% mais à 5,6% du produit intérieur brut. Et puis le procès au pénal de l'ancien patron de Volkswagen qui a débuté aujourd'hui en Allemagne après plusieurs années de retard, procès consécutif bien sûr, à l'affaire du Dieselgate. Martin Winterkorn est âgé de 77 ans, il encourt jusqu'à 10 ans de prison. 19h56, Tech & Co dans un instant, François Sorel, Frédéric Simotel et toute l'équipe, et nous on se retrouve bien sûr demain 18h pour nouvelles aventures en direct. À demain, bonne soirée.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.